Pas d'alcool. Alors, on va commencer Bezrat Hashem, notre troisième cours,
sur le chapitre 27. C'est un petit moment qu'on ne s'est pas vu.
Ah oui.
Donc, on va faire un petit résumé sur le chapitre 27. Très beau chapitre. Rappelez-vous que le nouveau thème qu'on a commencé depuis le chapitre 26, c'est comment être toujours joyeux et comment combattre la dépression et la négativité. Donc, quand je parle de dépression, je ne parle pas forcément de dépression psychiatrique. Je parle de dépression, ça veut dire être pas bien, la déprime. De ne pas sentir que notre travail est productif.
La reprise.
Donc on a expliqué qu'il y a plusieurs types de déprime. Mais ce n'est pas pour rien que je dis dépression, parce qu'on va en parler aussi. On a expliqué qu'il y a plusieurs types de déprime. Il y a des gens qui sont déprimés, Dieu préserve, parce qu'ils ont des malheurs qui leur arrivent dans leur vie. Des choses que Dieu a décidées. Des choses qui vont toucher Chas v'Shalom, à leur famille, à leur parnassa, etc. Et qu'on ne comprend pas. Qu'on voit pourquoi Dieu a fait ça. Alors sur ça, on avait fait un long cours avant les vacances, c'était fait longtemps, ça fait quelques mois, dans lequel on avait expliqué longuement on avait donné des techniques pour ça, comment je dois me convaincre dans le chapitre 26 que tout vient en vérité d'Akadosh Baruch Hu, et que même le mal en vérité c'est du bien. Ça c'était le chapitre 26. Maintenant le chapitre 27, ça c'est un chapitre qui nous parle un peu plus, parce que c'est des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours. C'est dit des fois, c'est pas qu'on est déprimé parce qu'il y a des malheurs qui arrivent. On est déprimé parce que on sent qu'il y a des bêtises qui nous viennent dans la tête. Et on sent qu'avec tous les efforts qu'on fait, toutes les fêtes qui sont passées, et Rosh Hashanah, et Yom Kippour, et Sukkot, et Simchat Torah, et quand les fêtes passent, et qu'on reprend la vie de tous les jours, on a l'impression comme si que, finalement, on ne sait pas si on a vraiment beaucoup changé. Et ça, c'est déprimant. Pourquoi c'est déprimant? Parce que quand on réalise finalement qu'on n'est pas celui qu'on aurait aimé être, il y a un moment dans lequel il se déclic, alors, ça c'est déprimant. Sur ça, l'Admor HaZaken a répondu plusieurs points qu'on a développés dans les cours précédents, surtout dans le dernier cours qu'on a fait avant les fêtes. Il a expliqué plusieurs points. D'abord, il a dit de quoi tu te plains, qu'est-ce qui te dérange? Ce qui te dérange, c'est que tu as des pensées pas cachères qui te viennent dans la tête. Tu crois que tu es pris pour un sadique. T'inquiète pas, c'est comme ça que Dieu a prévu. Dieu a prévu que les gens qui sont sadiques, ils n'ont pas de pensées comme ça dans la tête. Et les gens qui sont pas sadiques, ils ont des pensées comme ça dans la tête. Et c'est quoi leur mitzvah? Leur mitzvah, c'est de les repousser. Donc non seulement que tu ne dois pas être déprimé du fait que tu as des pensées pas cachères qui te viennent dans la tête, au contraire, dis-toi que chaque fois que tu réussis à les repousser, tu fais une mitzvah. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, une deuxième chose, et ça, c'est un point qu'on a développé longuement dans le dernier cours, elle dit en vérité, Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a deux types de plaisirs. Vous vous rappelez le salé et le sucré? On va rappeler. Quelle est la différence entre un plat, on va rafraîchir un peu la mémoire. Quelle est la différence entre un plat salé et un plat sucré? Qu'est-ce que tu préfères, David? Le salé ou le sucré?
Sucré.
Pourquoi?
Il y en a qui aiment les deux.
Lorsque Yaakov a préparé le plat pour son père, Yitzhak, il avait demandé à la base à Esav, il lui a dit, fais-moi des plats comme j'aime. Et qu'est-ce que dit le Zohar? C'est quoi les plats? Un plat salé et un plat sucré. Qu'est-ce que dit le Zohar? Pourquoi un plat salé et un plat sucré? Le Zohar dit, le plat salé représente ceux qui font teshuvah, et le plat sucré représente les tzadikim. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est sucré, tu n'as pas besoin de le travailler pour qu'il soit sucré. Il est déjà bon. On va le travailler pour qu'il soit... Naturellement, il est déjà bon. Il est bon, il est déjà doux. Ça, c'est ce qui est sucré. Donc c'est comme les tzadikim. Ça veut dire que, c'est quoi le challenge de ce qui est sucré? C'est de travailler sur la décoration, de le rendre encore meilleur. Mais il est déjà bon. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il est déjà bon à la base. Il va se parfaire pour être encore mieux, mais à la base, il est déjà bon. Le plat salé. Quand vous prenez, par exemple, un oignon. Est-ce qu'on peut manger un oignon comme ça?
Oui.
Et pourtant, quand on fait revenir un oignon, et qu'on le met, etc., dans un plat, il va donner un goût extraordinaire. Les gens vont dire, mais c'est beaucoup mieux que le sucré. Quelle est la différence? La différence, c'est que dans les plats salés, en général, il y a besoin d'un travail. Tu prends un légume qui est immangeable ou qui est même des fois amer, tu le travailles, et quand tu le travailles, tu vas transformer l'amertume en douceur. Ça, c'est le travail du Baal Teshuvah. Le travail du Baal Teshuvah, c'est comme le plat salé. Ça, tu prends quelque chose que tu as l'impression, mais ça c'est amer, il n'y a rien à tirer. Et quand tu le travailles, tu fais sortir quelque chose de nouveau. Alors c'est la différence. Même avec le travail que je vais faire... sur le plat salé. D'accord? Ça veut dire, j'avais un plat sucré, je l'ai travaillé, je l'ai cuisiné. J'avais un plat salé, je l'ai aussi cuisiné. Au bout du compte, résultat des courses, lequel sera plus sucré ? Le salé ou le sucré ? Lequel sera plus doux ? Je reprends la question. Je reprends la question. Imaginez que vous avez un plat sucré. Vous avez un plat sucré, d'accord ? Vous allez prendre une canne de sucre, vous allez faire avec ça un gâteau, vous allez prendre un plat, vous allez faire un plat sucré. Ce plat, vous le mettez dans un placard, il est rangé. Après, vous prenez un plat salé, des oignons, des légumes, des choses comme ça. Donc à la base, c'est immangeable. Vous le faites revenir, vous le travaillez, etc. Et à la fin, on a un plat qui est très bon. Au bout du compte, quand vous prenez les deux plats, le premier plat et le deuxième plat, le plat sucré et le plat salé, lequel sera plus doux ?
Le salé.
Et non, évidemment, le sucré. Le sucré sera toujours plus doux.
Bien sûr.
Mais seulement.
Mais sur le plus digeste, celui que tu vas manger plus.
Voilà. Seulement, lequel a entre guillemets plus de mérite, dans lequel on va plus apprécier ? C'est le salé.
Ben oui.
Parce que le sucré, il était déjà bon.
Il n'y a pas besoin
d'accord
de beaucoup de travail.
J'ai pas besoin de beaucoup de travail. J'ai travaillé sur la décoration, sur la présentation. Mais le sucre était déjà bon à la base. Ça, c'était le tzaddik. Il est déjà bon. Il est déjà doux. Et il sera toujours plus doux. Ça veut dire qu'il ne sera pas jugé, le tzaddik, il ne sera pas jugé sur l'effort qu'il a fait. Il sera jugé sur la performance. Parce que de toutes les façons, il était déjà bon à la base. Ça, c'est le tzaddik. Alors que le benoni, le baal teshuvah, lui, au contraire, c'est comme un plat salé. Le plat salé, on ne va pas juger la qualité d'un plat salé par rapport à ce qu'il va être doux ou pas. On va juger la qualité d'un plat salé quand on va voir comment il était à la base, comment il était amer et comment on a réussi à faire un bon plat. De la même manière, le baal teshuvah. Les gens ils vont dire oui mais j'ai fait teshuvah mais finalement combien de mitzvot j'ai fait. C'est pas comme ça qu'on calcule et qu'on estime un baal teshuvah. Parce que Hakadosh Baruch Hu il a deux types de plaisirs. Il y a le plaisir que l'obtiennent les tzadikim, c'est ceux qui font de la performance, et il y a le plaisir que l'obtiennent des gens comme nous, des gens qui font peut-être pas beaucoup de performance, mais qui font beaucoup d'efforts. Et chaque petit effort qu'on fait est très apprécié par Hakadosh Baruch Hu. Et donc ça, c'était une consolation pour le Benoni. Le Benoni qui est déprimé, qui se dit, avec toutes les fêtes que j'ai passé par les Slichot, j'ai passé Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. Et on revient dans la vie de tous les jours, t'as l'impression que c'est fini, il n'y a plus rien. D'accord ?
Hein ?
Alors, justement. D'accord ? Donc, on peut être déprimé, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où on est jugé à la performance, comme tu dis. Là vient l'Admor HaZaken, il te dit, ça marche pas comme ça. Et tu dis, tu veux de la performance ? Ça, c'est pour les Tzadikim. Nous, on n'est pas jugé sur la performance. Ne te regarde pas sur la performance. Regarde-toi plutôt dans la qualité de ce que tu as fait. Regarde à quel point c'est devenu un effort. Comment c'était tellement dur pour toi. Et comment le Yitzhara, il t'a attaqué 100 fois et 95 fois t'as gagné. Alors moi, je me concentre évidemment sur les 5 fois que j'ai perdu. Mais non, il faut te concentrer sur les 95 fois que t'as gagné. Et dis-toi que c'est extraordinaire ce que t'as fait. C'est peut-être même mieux que le tzaddik. Et peut-être que le tzaddik à ta place, il aurait même pas tenu. Donc ça, c'est écrit dans Pirkei Avot. Ça, on verra plus tard.
Il n'est pas confronté.
Parce qu'il n'est pas confronté. Il n'est pas confronté. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger quelqu'un. Il ne faut jamais juger quelqu'un qui n'est pas à notre niveau. Quand tu vois des gens qui sont dehors, qui ne font pas Shabbat, qui ne font rien du tout, on a envie tout de suite de le juger, de dire ouais, moi aussi à sa place j'aurais pu faire. Qu'est-ce que t'en sais ? Avec les épreuves qu'il avait, qui te dit que tu aurais tenu ? Qui te dit qu'il t'aurait fait 5% de ce qu'il fait ? On ne peut pas parler. Donc ça, c'est pour rassurer, mais ça, c'est un thème qu'on reviendra plus tard, chapitre 29, 30, 31, le fait de ne pas juger. Là, pour l'instant, on s'arrête sur la question de ne pas déprimer, se dire que. Akadosh Baruch Hu n'attend pas de la performance de nous, ce qu'il attend, c'est le fait qu'on fasse des efforts. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va expliquer concrètement qu'est-ce qu'on appelle faire un effort. Alors évidemment, faire un effort, ça veut dire faire attention à ce qu'on regarde. Ça veut dire aussi faire attention à ce qu'on mange. D'accord. Mais au-delà de ça, pour un chassid, ça veut dire quoi faire attention, faire un effort ? Alors là, aujourd'hui, vous allez voir, on va apprendre une très grande notion de chassidoute, et je pense que ça peut être le titre du cours. Le titre du cours d'aujourd'hui, c'est « Itkafia ». Certainement que les vétérans du cours de Tania se rappellent. « Itkafia ».« Itkafia », ça veut dire « repousser Yetzara ». On va donner aujourd'hui des techniques et des choses concrètes dans lesquelles c'est des petites choses de la vie de tous les jours. Mais c'est des petites choses qui nous coûtent très cher. Et quand je fais cette petite chose, j'ai autant de mérite qu'un tzaddik. Parce que il faut autant d'efforts pour moi pour faire cette petite chose que le tzaddik, il faut pour faire des grandes choses. On va donner des exemples concrets aujourd'hui. D'accord ? Alors, Vélohod. On va prendre Vélohod. On est à l'étude, donc Vélohod est là à Phil. Donc je suis à la page, j'ai dit 25, je crois que c'est 26. Voilà, page 26, pardon. Vélohod, et pas seulement ça. L'Admor HaZaken va expliquer maintenant que non seulement que le Benoni, il a un grand niveau lorsqu'il se travaille sur des choses qui sont interdites. Concrètement parlant, on avait donné des exemples. Quand il marche dans la rue, par exemple, et bon, il n'arrive pas à faire attention à ce qu'il regarde. D'accord? Alors sur 100 femmes qui sont passées, il en a regardé 5. D'accord? Bon, okay, il est, alors qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, je vais regarder.
C'est le 4 mètres, les autres, ne pas l'attirer.
Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on te dit? Mon Razekin te dit, il ne faut pas déprimer. Il faut regarder aucune. C'est sûr, ça. La question ne se pose pas. Mais l'Admorazaken te dit, il ne faut pas déprimer. Pourquoi? L'Admorazaken te dit, il ne faut pas déprimer. Parce qu'il faut te dire que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de moi, c'est l'effort. C'est quoi l'effort? L'effort d'abord dans les choses interdites. De me retenir dans les choses interdites, de ne pas faire ce qui est interdit. Maintenant on va parler aujourd'hui, bonsoir. Des efforts dans les choses permises. Ce qu'on appelle le Hidkafia. D'accord? Les efforts dans les choses qui sont permises. Alors, vous savez. Merci. Ça, c'est une question très importante qu'il faut qu'on se pose. Il y a des gens qui pensent que ce qui est interdit, et ce qui est permis, il faut le faire. Je vous donne un exemple. Est-ce que, par exemple, si ce soir j'ai envie d'aller au restaurant, d'accord? Qu'est-ce que je prends au restaurant? Je prends une entrée. Je prends un plat principal, enfin je prends d'abord un poisson, je prends une viande, je prends un dessert, je m'éclate. C'est vrai, c'est mais c'est cachère sans problème, hein. Cachère, Beldine, Lubavitch, ce que vous voulez. J'ai bien mangé avec la bracha avant, la bracha après. Est-ce que quand je sors du restaurant, avec le ventre comme ça, bien plein, est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher? Est-ce que je peux me sentir bien?
Bah oui,
pourquoi pas.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça dépend du resto.
Non, c'était très bon. J'ai payé cher, mais de bon cœur, c'était bon, vraiment ça valait le coup. Et des fois tu payes bien, mais tu dis ouais, ça, la vérité ça valait le coup.
En plus j'étais invité.
Ouais. En plus t'es invité.
T'as pris des fiches en partant.
Est-ce que j'ai une raison de me sentir mal?
Non, a priori non.
A priori non. La Torah me dit que c'est permis. Bien si sûr. C'est permis, vas-y, éclate-toi.
Bah oui.
Là aujourd'hui on va prendre une nouvelle notion de la chassidoute.
Non,
j'ai pas dit ça. C'est la notion de savoir se retenir. Et ça, d'après Nachmanide, c'est une mitzvah de la Torah. Pourquoi? Dans la paracha Kedoshim, la Torah nous dit « Kedoshim tiyu, soyez saints, ki kadosh ani, car moi, Dieu, je suis saint. » Nachmanide pose la question, il dit « Ça veut dire quoi être saint? Qu'est-ce qu'on fait pour être un saint? Il faut qu'on verse de l'eau dessus. Qu'est-ce que je fais pour être un saint? » Et qu'est-ce que dit Nachmanide? Nachmanide dit, c'est le mot de. Nachmanide dit, c'est quoi être saint? Être saint, ça veut dire Kadesh atzmecha ben mutarlach. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Ça veut dire qu'un juif, il est différent, pas seulement dans le fait qu'il ne mange pas ce qui est interdit, ça c'est évident. Et ça, c'était le premier niveau, c'était le cours qu'on a fait avant les vacances, avant les fêtes, dans lesquelles on a expliqué que chaque fois que je me retiens, je fais une mitzvah, etc. Ça, c'était les interdits. Maintenant, on va passer à une étape supérieure. Que même si, Baruch Hashem, maintenant, je suis un juif religieux, je fais mon Shabbat, Baruch Hashem, j'ai pris la vitesse de croisière. On te dit, maintenant, c'est quoi la phase B? La phase B, c'est que même dans ce qui est permis, je dois apprendre à me retenir. Mais me retenir combien? C'est pas interdit. Alors, coach, qu'est-ce que tu veux? Je mange pas? Je mange que du pain et du sel?
Non.
C'est ce que tu veux?
Mais un peu moins.
Où est le juste milieu? Vous savez ce que dit Nachmanide? Nachmanide, il dit, quand tu t'habitues à kiffer, on rentre dans la surenchère. Au début, tu vas aller à un super restaurant. Il est très cachère. Bon, cachère, très cachère, etc. Tu vas t'éclater. Après, t'as un copain qui va te dire, tu sais, je trouvais un super restaurant. Bon, il a pas la plaque, mais t'inquiète pas, il connaît, il fait attention, etc. Il achète des bons trucs. Tu dis, je le connais. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ton Yitzhara? Il va dire, bon, ça va. Vas-y, tu peux y aller. Tu vas y aller. Et après, progressivement. Et là, quand on va t'inviter, on va dire, tu vois, tout le restaurant que tu connais, ah, ça, c'est rien par rapport à ce restaurant que je veux t'amener. Dis rien, c'est des amateurs.
Là, c'est pas permis, là,
celui dans lequel je vais t'amener, non mais, il va dans la surenchère.
Bah, c'est interdit.
Non, c'est pas forcément interdit. Peut-être que c'est permis.
Peut-être que c'est du poisson.
Non, peut-être que c'est cachère. Mais progressivement, il t'amène. Au début, il te dit, viens, on fait un truc qui est pas cachère comme ce que tu as l'habitude, mais c'est cachère. D'accord? Et progressivement, qu'est-ce qu'il te fait? Il finit par t'amener à la Vera. C'est pour ça qu'il faut faire attention à faire ce qu'on appelle Hidkafia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à se retenir. On doit faire attention à se retenir. Alors, juste, je rajoute un point important. Ça, c'est un travail qui est spécifiquement pour le Benoni. Pourquoi? Parce que pour le Tzadik, la Gemara, dans le Talmud de Jérusalem, elle dit qu'un homme devra rendre des comptes pour tout ce qu'il a vu et qu'il n'a pas mangé. Vous me suivez? un homme devra rendre des comptes pour tout ce que ses yeux ont vu et qu'il n'a pas mangé. Ça, c'est le tzaddik. Parce que le tzaddik, tout ce qu'il voit, il doit manger. Il doit ramener les étincelles divines vers un kadosh baruch hu. Mais celui qui n'est pas tzaddik, il doit avoir la démarche inverse. Il doit se dire, est-ce que ce que je vais manger, ça va me faire du mal ou ça va pas me faire du mal? Il y en a qui vous diront que le Shabbat, on est comparé à des tzaddikim. Mais oublions le Shabbat pour l'instant. Parce que le Shabbat, on peut y aller dans les repas. Donc, on va parler maintenant donc de la notion de ne pas se laisser aller et de pas faire en vérité, de montrer au Yetzarara que tu fais pas ce que tu veux. Parce que finalement, même si c'est cachère, mais quand je fais passer le message à mon Yetzarara, vas-y, tu peux y aller, tranquille. Je lui dis pas stop. Quand je lui dis pas stop, et ben après, il surenchère, et après, j'ai fini, j'arrive à la vera. Quand j'habitue mon Yetzarara à lui dire, d'accord, tu veux 3 boules de glace, t'en auras que 2.
Non, 4, comme ça, avec 3.
Il y a la bourse, lui.
Non, tu demandes le truc. Hein. Mais pourquoi tu traduis Kedusha par limitation?
Alors justement, parce que Kadosh, en hébreu, ça veut dire sanctifier. Ouais. Et c'est quoi une sanctification? Ça veut dire s'interdire quelque chose. Comme les Kiddushin.
Au contraire.
Mais au contraire. Quand, c'est quoi les Kiddushin? C'est par les Kiddushin, la femme est séparée des autres. C'est-à-dire que je me sépare.
Je me l'autorise.
Ah non, au contraire. Kiddushin, ça veut dire que je sépare. Ça veut dire séparer Kadosh. Kadosh ou Mouvdal. L'origine du mot Kadosh, ça veut dire séparer. Kadosh. D'accord. Kadosh, ça veut dire qu'il est un cran, il est séparé. Il est...
Je vais me séparer.
Mais il est fesses, tu comprends, c'est un cran dessus. C'est...
Quoi? Et si les Marocains en plus?
Il est fesses, non? Non, le Marocain. Kaza.
Il y en a qui disent que tu peux être Kadosh à Tzmechal Moutalecha, c'est-à-dire que lorsque tu manges quelque chose qui est moutard, tu manges les Shem Shamayim. Sans limitation.
Ça, c'est pour le tzaddik. Quand je suis devant un bon steak, je mange les Shem Shamayim. Qu'est-ce qu'on peut? Où on peut? Non, c'est pas une parole.
Je mange les Shem Shamayim.
D'accord, si, mange les Shem Shamayim. Il est parti au restaurant, il s'est éclaté, il a mangé comme un porc, excusez-moi du terme, il va dire j'ai fait pour Dieu.
Non, un steak.
Il est parti à tel point qu'il n'y a plus de place dans le ventre. Ouais. Avec un bon vin, avec un bon dessert, tout. Il dit, pour Dieu, un petit peu. C'est pas pour Dieu. Il a béni Dieu avant, béni Dieu après, pas de problème, mais c'est pas pour Dieu.
Hein?
C'est pour son âme animale. C'est permis. Y a pas de problème. Je peux pas te dire qu'il y aura pas d'enfer pour ça.
Bien sûr, c'est pour Dieu.
D'accord.
On doit prendre des forces pour servir à Kadosh Baruch
Hu. Ouais, bien sûr.
En général, après un repas comme ça, tu vas dormir.
Après un repas comme ça, tu cours Beit HaMidrash ou tu vas aller dormir?
Mais
Beit HaMidrash,
il est fermé.
Arrête l'histoire. Arrête l'histoire, David. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, le Yetzarara, il se sent très fort. Et c'est quoi la plus grande force du Yetzarara? C'est il veut que quand je demande quelque chose, je dois l'avoir. Il commence par ce qui est permis, et après il finira par avoir ce qui est interdit. Quand je me retiens de pas donner tout, de pas prendre même ce qui est permis, de me limiter, je fais passer le message au Yetzarara, c'est pas toi le patron. Il y a un patron ici, et quand on dit non, c'est non. Comprenez? C'est comme ça que ça marche.
C'est comme quand tu fais un régime.
Exactement. C'est comme tout, comme dans l'éducation. Ça veut dire que quand tu fais passer le message à un enfant, quand tu fais passer le message, d'accord, que même ce qui est permis, c'est pas forcément que tu l'auras. Tu l'auras peut-être maintenant ou dans une heure. Parce qu'on va voir que quand on dit limité, c'est pas limité que dans la quantité. Ça peut être limité aussi dans le timing. Je donne un exemple. J'ai envie de me servir maintenant un verre de coca. Je le veux quand le verre de coca?
Maintenant.
Je le veux tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer si je le veux tout de suite, mais je me retiens, je vais le prendre dans une minute? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'évanouir. Il va rien se passer.
Le poids, tu vas te retenir aussi.
Attends, une seconde. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant une minute? C'est un exemple que je donne. Qu'est-ce qui va se passer pendant 7 minutes? D'accord. Pendant 7 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais me retenir. Et je fais passer le message à mon Yetzarara. C'est pas parce que tu veux, tu l'auras.
Je me maîtrise.
Je sais par exemple, ça c'est, mais c'est des choses très, très subtiles, très fines. Je ne vous demande pas d'être à ce niveau maintenant. Je vous donne des exemples et après chacun à son niveau, il appliquera.
Une histoire qu'il a raconté ton père l'autre jour.
Quelle histoire?
Non, les enfants qui faisaient un test aux enfants, ceux qui étaient capables de se retenir s'ils n'étaient pas tout de suite.
Je dois être avec les enfants.
Ça
veut dire qu'il faut apprendre à se retenir. D'accord? Et c'est pas parce que je le veux maintenant que je l'aurai. Même si je l'aurai dans la même quantité, peut-être je peux l'avoir plus tard. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup chez les chassidim, la notion de hit kafia, c'est-à-dire savoir se retenir.
Retenu là, pour quoi? Les raïvés. Ouais.
Mais ça, c'est pas une envie, ça.
C'est pas envie de manger. C'est un besoin, ça.
Marcel, qu'est-ce que t'auras envie de manger maintenant, là? Dis-moi un truc. Non, non, dis-moi un truc, un plat, quelque chose de. Un gâteau, un truc, quelque chose là que t'aurais aimé voir devant toi. Moi, un exemple. Qu'est-ce que t'aurais aimé voir comme pâtisserie? Qu'est-ce que t'aimes comme pâtisserie?
Toutes.
Donne-moi la pâtisserie que tu aimes le mieux.
Une religieuse.
Hein?
Divorcée?
Une religieuse. Quoi?
Il a une religieuse.
Dis-moi la pâtisserie que tu aimes le mieux.
Un opéra ou j'en
sais rien. Un opéra, d'accord. Ouais. Imagine-toi que je t'amène un opéra, je le mets devant toi.
Je le mange.
D'accord. Tu lui fais des yeux, il te fait des yeux. D'accord.
Si je me retiens,
tu le regardes.
C'est ça.
Et tu te dis, j'ai envie de le prendre, je vais me retenir. Je le prends dans deux minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le manger. D'accord.
Oui.
Mais tu vas pas le manger comme un animal.
Ah bah non.
Parce évidemment. Que l'animal, dès qu'il a envie, tout de suite il dévore.
Et, kiffer, et, puis après...
et je vais vous dire quelque part, on le fait tous un petit peu, mais du moindre manière, la bracha. Quand j'ai envie de manger, quand je vais manger, tout de suite. Ça me dérange pas de bénir Dieu après. Une fois que j'ai bien mangé, d'accord. Une fois que j'ai bien mangé, je dis à Dieu, merci pour ce que tu m'as donné. Mais là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, avant de manger, tu dis merci à Dieu d'abord. Tu remercies Dieu. Tu dis Baruch, tu dis que Dieu est béni. On habitue son etzara que même si moi je vais manger maintenant, je vais me retenir.
Pendant ce temps, tu te retiens.
Merci. Mais bon, sauf que là, la retenue est de quelques instants. Là, je parle de. Mais c'est des exemples que je donne. Hein. C'est-à-dire que la liste n'est pas exhaustive. Chacun doit réfléchir à son niveau. Après, la vérité, je vais vous donner un exemple, d'accord? Par exemple, quelqu'un va rentrer chez lui ce soir à la maison après le cours de Tania. Bon, la télé, c'est pas cachère, mais il a la télé à la maison, et il sait qu'en général, il regarde la télé le soir. Combien de temps il regarde la télé en général? Il regarde la télé pendant 3/4 d'heure. D'accord? Et là, ce soir, il va se dire, je vais pas dire j'arrête de regarder la télé parce que je suis pas au niveau, mais au lieu de regarder la télé 45 minutes, je regardais la télé 35 minutes. Et je m'arrête. Ou bien, le match il a commencé, mais moi je vais attendre 5 minutes après le début du match. Là, c'est trop ça, hein. Là, c'est impossible. Là. Et j'éteins mon téléphone, comme ça il n'y a pas de notification.
Hein.
C'est pas un problème, je mets la rediff. J'appuie le bouton, il y a le bouton toujours là. Rediff. Je mets une pause 5 minutes, et je verrai le match avec 5 minutes de retard. Qu'est-ce qui va se passer? J'entendrai les gens dehors qui ah, je sais pas pourquoi ils crient.
Je vais bouillir à l'intérieur de moi, mais ça voilà.
Ça c'est bon, ça dépend qui joue.
Et ça c'est des exemples, c'est-à-dire des choses que même si tu fais ce qui est permis, pas faire comme un animal. Ouais, je me rappelle, il y avait un raf qui nous donnait l'exemple. Il dit par exemple quand tu prends du coca, d'accord, prends du coca, tu bois un bon verre de coca, d'accord, bon très bien. Après qu'est-ce que tu fais après? Ah. Non pas tu rosses, pas joli de roter. Ah. À quoi il sert le A?
Je kiffe.
Hein?
Ça fait du bien.
Je suis obligé de faire ce A?
Non.
Non, moi, je peux faire un.
Hein?
Pourquoi un jour?
Bah, là, ma soeur.
Bien, un bon verre de vin pour Yves. Hein? Un bon verre de vin.
Déjà, tu vas le sentir.
Tu le sens, d'accord?
Le verre de vin.
Tu vas sentir, tu vois.
Tu le sens.
Tu es censé d'abord.
D'accord? Et après, quand t'as fini, qu'est-ce que tu fais?
Hein, on fait à
non, avant l'Amérique, avant de penser à Dieu. Avant de penser à Dieu.
À la Geffen, à la Geffen.
Normalement, s'il est bon, tu te resserres un autre verre.
Oui, la vie est pleine de ça. Ça veut dire que, en vérité, ce qu'il veut nous montrer ici, c'est que dans les choses qui sont permises, mis à part ce qu'on a besoin, parce que même prendre un bon vin, ça peut ouvrir l'esprit, pas de problème, ça. On en a parlé de ça. Ça peut ouvrir l'esprit, ça peut me rendre joyeux, il n'y a pas de problème. Mais il y a plein de détails qu'on rajoute, comme la quantité, comme le timing, comme les façons de kiffer comme un animal, des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Qui ne sont pas interdites, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Et c'est sur cette zone que le Benoni va se travailler. Une fois que le Benoni a appris à se travailler pour ne pas faire ce qui est interdit, Baruch HaShem fait ce qui est permis,
donc,
il va se travailler maintenant, excuse-moi, sur ce qui est permis, comment je peux mieux le faire. Et je vais vous donner plein d'exemples. Encore un autre exemple, après les questions. Autre exemple, le Shabbat. Bon, une personne au début, pour lui, le Shabbat est très difficile à le faire. Après, il a réussi, Baruch HaShem, il ne travaille pas le Shabbat. Maintenant, techniquement, il a le droit de passer toute l'après-midi de Shabbat à dormir.
Oui.
Il n'y a rien qui l'interdit. Un Shabbat d'été qui sort à 23h, il a passé 5 heures à dormir. Bon. D'accord? Il a Baruch HaShem le lit. Baruch HaShem, il a éclaté le lit. Il a dormi 5 heures. Est-ce que c'est interdit?
Non.
C'est pas
non.
Interdit. Là vient la phase 2 du Benoni. Là vient la phase 2 du chapitre 27. Il te dit, maintenant que tu as réussi à faire l'effort de ne plus fauter, Baruch HaShem, t'as déjà atteint ce niveau-là. Maintenant, ta marge d'effort, c'est comment, même dans ce qui est permis, comment je peux mieux le faire et moins penser à ma personne, penser plus à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce que dans ma tête, quand c'est permis, c'est permis.
Dans cet exemple-là, c'est parlant, mais dans l'exemple précédent, ça fait un peu bizarre.
Pour toi, ça fait bizarre maintenant?
Oui, oui.
Ah.
D'accord, pour moi,
tu vas voir que la prochaine. Hein
non, pour l'exemple précédent, ça fait.
Quel exemple?
l'exemple précédent de kiffer après un repas ou quoi que ce soit, ça fait un peu bizarre.
Pourquoi ça fait bizarre?
Pour l'exemple que tu prends là maintenant, que tu viens de prendre pour le Shabbat, c'est essayer de s'améliorer ou de ressentir un peu plus le Shabbat, bon d'accord, ok, pas de problème. C'est, pour moi en tout cas,
c'est une progression. Oui.
Mais pour l'exemple précédent, ça fait bizarre. C'est comme si.
Je mange comme un animal?
Non.
Bah oui.
Non. Si tu manges comme un animal, qu'est-ce qu'il fait l'animal quand il mange?
Il mange. C'est besoin vital.
Il mange au début, puis quand il a fini de manger ce qu'il mange, il a fini.
Ah non, non, il kiffe l'animal, là. Je t'en sais. Bien sûr qu'il kiffe. Bien sûr qu'il kiffe l'animal.
Et l'animal, il a pas de kiffe, il a un besoin. Il va chercher son.
Mais tu crois que l'animal, tu crois un chien, tu lui donnes deux types de viande, tu crois qu'il sent pas quand la viande est bonne?
Et
quoi, ça va? Bien sûr, ça va.
C'est partie de son estomac, c'est son estomac qui sent. C'est
pas mais il ressent, bien sûr qu'il ressent.
Bon.
Il ressent.
L'homme, quand il va, quand il dit il mange pas comme un animal, ça veut dire qu'il a fait, il a ouvert sa bouche, il a fait la bracha avant, il a fait la.
Ça, c'est avant et après. C'est-à-dire qu'il a commencé comme un homme, il a terminé comme un homme. Et au milieu.
Maintenant, qu'est-ce que tu vas rajouter ici? Quand tu dis il faut lui couper un peu le plaisir.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit couper le plaisir. C'est pas ce que j'ai dit.
Ah, d'accord.
J'ai dit, il faut montrer au Yetzarara que tu n'auras pas ton plaisir à 100% quand tu le veux. J'ai pas dit que tu l'auras pas. Peut-être que tu l'auras. Mais c'est, il va rien se passer si tu l'auras dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure. Et ça, c'est des messages qu'on envoie à notre Yetzer Hara. Et ça facilite énormément après. Ça veut dire qu'après, quand je me suis déjà habitué dans des choses permises, à savoir que, même si je le veux, je l'aurai que dans 5 minutes, quand après le Yetzer Hara me propose une Avera, j'ai déjà pris l'habitude à dire non.
Donc ce qui est intéressant, c'est
de réfléchir.
Exactement.
C'est pas juste
par rapport à ça.
Ce que tu disais, c'est-à-dire pourquoi que c'est uniquement non, s'habituer à ne pas soumettre sa volonté au Yetzer Hara.
Exactement.
C'est uniquement dans ce but-là.
Pas que dans ça. Pas que dans ce but-là.
Non, mais
c'est une mitzvah de le faire. C'est une mitzvah de se sanctifier dans le sens, même dans ce qui m'est permis, je dois chercher à être plus raffiné.
Ce que tu dis là, c'est valable pas uniquement pour la nourriture, c'est valable pour tout, on va dire.
Mais je vais te donner un exemple.
Parce que ce que tu dis, cite là, ça peut être valable pour tout ce qui est finalement
tout,
matériel.
Tout.
Ça peut tout, être finalement tout, pour tout, les tout, 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 à la tout, maison, pour tout. Parce que ma voiture est cabossée, pas cabossée, je m'en fous. À la rigueur,
c'est pas ce que j'ai dit.
Mais si, on peut le.
C'est parce que je te donne un exemple. Par exemple.
Moi, je me souviens d'un ami qui était comme ça. Rien à faire, la voiture, il n'avait plus cabossé. Il dit, allez, remettez un coup de.
Non. Je te donne un exemple.
Parce qu'il a dit, je m'en fous.
Imagine-toi, la voiture, elle est cabossée. La voiture, elle est cabossée. Mais j'ai pas dit que tu dois le faire. Je te donne un exemple. Imagine-toi, la voiture, elle est cabossée. Et toi, comme tu es maniaque.
Je bois pas bien.
Tout de suite, le matin même, tu vas aller la faire réparer.
D'accord.
Ça supportait aucun retard. Et tu dis, tu sais quoi? Au lieu de le faire ce matin, je le ferai demain. Et à la base, et à la place, j'irai faire une mitzvah, par exemple. C'est très difficile, parce que c'est contre ton caractère. Qu'est-ce que dit ton caractère? Ton caractère est dit, fais-le tout de suite. Ça me dérange, fais-le tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans la vie comme ça, que on se fait croire que ça peut supporter aucun retard et qu'on doit les faire, alors qu'en vérité, on n'a pas besoin de les faire. On les fait par pur plaisir. Or, par définition, le plaisir charnel, donc le plaisir matériel, n'amène pas toujours du bien à l'homme. Il pousse la personne à faire la faute. Donc je veux travailler sur mon plaisir sans enlever ce que j'ai besoin. Je ferai ce que j'ai besoin. Parce que un commercial, il doit avoir une voiture propre. C'est normal. Il doit avoir une voiture intacte. Et en plus, c'est normal qu'en tant que personne, ça te dérange d'avoir une voiture abîmée. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et on n'a rien contre ça. On n'a pas à te dire « vis comme un clochard ». C'est pas ce qu'on est en train de dire. « Vis comme un homme ». Mais la question est à quel moment je vais faire ce que je vais faire et dans quelle quantité, dans quelle mesure. Donc ça, en vérité, c'est des choses, il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun, il se connaît. Chacun, il sait sur quoi il peut se retenir. Toujours, on peut se retenir. Toujours, on peut avoir plus, toujours, on peut avoir moins. Quand je vais aller, par exemple, au restaurant, qui dit que je dois goûter à tous les plats? Qui dit que je dois, comme ça, manger comme un... À un moment, tu sens quand c'est, à la limite, la gloutonnerie. Tu sens que... Tu sens à un moment que c'est pas ton côté homme qui parle, c'est ton côté animal qui parle.
All you can eat.
All you can eat. D'accord? Mange tant que ça rentre. Tant que ça rentre, tant que t'as pas envie de vomir.
En revanche.
Ça, c'est aux États-Unis, ils aiment bien ça. All you can eat.
En revanche, tu as la possibilité, effectivement, de prendre des choses dans des petites quantités, mais de très très bonne qualité. Est-ce que ça, c'est quoi?
C'est la même chose.
C'est le même
problème. La question est, c'est pas une question de quantité ou de qualité. La question est-ce que je vais me donner ce que je veux quand je veux? Ou bien est-ce que je vais m'habituer à me retenir?
Est-ce que je satisfais une envie?
Je peux satisfaire.
Ou pas?
J'ai pas
non,
dit que...
non, oui. Complètement. Tout est dans le complètement.
C'est ça. D'abord, est-ce que ce sera complètement? Et aussi, est-ce que je le ferai au moment où je le voulais?
C'est ça.
D'accord?
Oui,
quand
y
tu
y
te retiens.
Temps, y a le...
Parce que c'est comme ça. C'est quand tu veux quelque chose tout de suite, dans 5 minutes, tu voudras moins. Tout de suite, je le veux! Alors, quand je le prends maintenant, là, je suis à fond dedans. Quand tu attends 2 minutes, même 30 secondes, c'est plus la même chose. C'est un niveau, ce que j'ai envie de dire. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est à ce niveau-là. À mon avis, je pense qu'on peut atteindre un petit peu ce niveau-là. Et à l'Aïchiva, en tout cas, on s'habitue à ça. Un petit peu.
Ce niveau-là, il te fait atteindre l'autre niveau, c'est-à-dire de t'empêcher de fauter.
Non, parce que le tzaddik, il a un niveau qu'il n'a plus envie de fauter.
Non, mais je veux dire, l'autre niveau, ça veut dire l'autre
étape. L'autre étape.
Ah oui, étape, oui, exactement.
Le fait que quand la Vera, elle arrive,
ah oui, t'es déjà,
tu te satisfais.
T'es immunisé. T'es habitué à te contrôler.
C'est ça.
T'es habitué à te contrôler. Alors que si tu te dis oui, si tu dis oui à tout ce qui est permis, dès que tout d'un coup on te propose une Vera, tout d'un coup tu commences à poser des questions.
Une seconde nature.
C'est-à-dire que là, t'as un combat, alors que t'avais pas de combat avant. Mais si je m'habitue à avoir un mini combat, même dans ce qui est permis, automatiquement.
Tu changes ta nature complètement.
Eh ben oui.
Pour changer sa nature, il faut changer les deux côtés.
Non, c'est des choses qui sont accessibles. On va développer.
En fait, d'accord. Le problème de notre époque, c'est qu'une des plus grandes avéras, c'est de ne rien faire.
Une des plus grandes
avéras, c'est de ne rien faire. Donc si tu t'habitues à ne rien faire.
Oui, c'est un autre exemple. On va parler aussi après. Alors, je voudrais ajouter aussi un autre point. Après, on va faire dans les mots, parce qu'on n'a pas encore commencé dans les mots. C'était important pour moi de faire cette longue introduction, parce que sans ça, on ne va pas comprendre la suite. Après, la suite, ça va couler comme de l'eau. Vous savez, le but de la chassidoute Rabad, c'est de nous apprendre à méditer à la grandeur de Dieu. D'accord ? Réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu pour aimer Dieu et craindre Dieu. Le problème, c'est que quand tu as quelqu'un qui est toute la journée dans des plaisirs charnels et corporels, c'est-à-dire dans des plaisirs physiques, même si c'est des plaisirs permis, quand tu lui mets devant une page de Gemara, devant une page de Zohar, devant une page de Tania, tu lui dis, viens, on étudie. Mais le gars, il n'est pas là. Il n'est pas là. Parce que il n'est pas là, il n'est pas intéressé par ce que tu lui racontes. Mais si déjà avant il s'est habitué, que même quand il voulait ses plaisirs matériels, il s'est habitué à se retenir. Donc il fait passer le message à son corps, je ne suis pas un animal. Maintenant je vais manger parce que je vais manger, et bon, accessoirement je vais kiffer, mais je ne suis pas un animal. Automatiquement, plus il va s'habituer comme ça, et plus il va enlever la grossièreté qui est autour de nous. Parce que ce qu'il m'a expliqué maintenant, c'est que quand on se laisse aller à faire tout ce qu'on veut quand on le veut, on devient progressivement grossier. Il y a comme une couche de grossièreté qui vient sur moi. C'est quoi la grossièreté? C'est pas que je commence à dire des gros mots. La grossièreté, ça veut dire que je me laisse aller. Je m'en contrôle pas. Quand je me retiens, chaque fois que je me retiens, j'enlève un peu la couche de grossièreté qu'il y a sur moi. Donc c'est très important d'apprendre à se retenir. Et je pense, à mon avis, que c'est une chose qu'il faut apprendre aussi à nos enfants. Vous savez, les enfants, ils rentrent au magasin, je veux des bonbons. Maintenant, peut-être que tu comptais lâcher les bonbons. Après, tu les achètes pas. Tu dis dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant?
De suite.
Il veut tout de suite, il fait une shkamba, il veut le bonbon tout de suite. D'accord? Tu dis, mais on n'a pas payé à la caisse encore. Je dis, non, mais je le veux tout de suite. On gardera le paquet, on payera après, ça marche pas comme ça. Quand tu expliques à l'enfant, tu lui dis, tu le veux, tu l'auras, mais pas tout de suite.
Faut pas sûr.
C'est très dur pour lui. C'est pour nous aussi d'ailleurs. D'accord? Mais tu lui apprends ça, tu lui inculques cette valeur. Que c'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on l'aura. Après, ce même enfant, quand un jour il verra un bijou sur quelqu'un, et qui se dira j'en ai envie, mais qui sait que ce bijou n'est pas à lui, il s'est déjà habitué à se battre avec lui-même et à dire il n'est pas à moi, je ne touche pas. Tu l'as habitué à se battre avec sa personne. Apprécier tout ce qu'on reçoit, exactement. Okay. Donc avec cette introduction, maintenant on va rentrer dans les mots. Vélorod. Donc on est à l'étude du 6 Adar. D'accord. Vélorod, et pas seulement ça. Donc non seulement qu'on a expliqué avant que le Benoni doit apprendre à se travailler sur les choses interdites et que chaque fois qu'il réussit, il fait un grand plaisir à Kadosh Baruch Hu comme les plats qui sont salés, comme on a expliqué longuement. Mais pas seulement ça. Et la file, ou bidvarim amutarim les gamres, même dans des choses qui sont entièrement permises. C'est-à-dire, c'est pas que c'est kasher beddin. Beddin, j'ai rien contre le beddin, mais c'est kasher de glatte. Ça veut dire, c'est, y a aucun problème de kashroute. Kashroute, c'est ultra, ultra kasher. Et tu vas dire, attends, qu'est-ce que tu veux? C'est cachère, le bon Dieu lui-même, il a mis son tampon dessus. Même si c'est moutard les gamrés, c'est entièrement permis. Même dans ça, je vais apprendre à me retenir. Pourquoi? Qui colle ma chéha Adam zovear itro, dès que l'homme va sacrifier son etzarara. Il emploie ici le terme sacrifier, comme un sacrifice. Parce que finalement, c'est un corban, c'est comme un sacrifice. C'est quoi un sacrifice? Je prends une bête, je la mets sur un autel et on va la brûler. Quand je vais dire mon Yitzhara, j'ai une envie, et je brûle cette envie.
Mais ton envie,
c'est comme si que je suis en train de sacrifier une partie de mon envie à Dieu. Je dis, tu vois, à Kadosh Baruch Hu, mon envie, si je la voulais à 100%, j'aurais pris ce que je veux maintenant. Mais là, je vais l'avoir à 95%, mon envie, là. Parce que j'ai pas eu quand je voulais. Je l'avais devant moi, et tu m'as enlevé 5% de mon kiff. Je suis pas content. Et ben, c'est 5% du kiff que j'ai enlevé, à qui je les ai donné. Je les ai sacrifiés à Kadosh Baruch Hu. A filou shakala. Et regardez ce qu'il dit. Même un instant. Donc là, par exemple, on parle de la bracha. Comme par exemple, j'ai envie de manger. Et ça, on habitue un enfant. Ça aussi, je pense, à mon avis, que c'est très important d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge, dès qu'ils savent parler, à faire la bracha avant de manger. Parce que chez un enfant, il y a l'instinct animal qui dit « j'ai envie de manger », il rentre à la cuisine, et maman l'a préparé, mais c'est pas l'heure du repas, il veut manger, il mange. C'est tout, il a envie de manger. Quand tu l'expliques, tu dis « non, tu veux manger, on va faire la bracha d'abord ». Même un instant qui sont retenus, même ça, cet instant, ça aide, c'est un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, et ça aide les kafia ou mitkaven, les kafia, les citra rach, bichala, la smaline. Je fais pas ça pour un régime. Je fais ça, Rakshnia. Je fais ça pas pour un, je fais pas ça pour un régime. Je fais ça pour mon intention et de pousser le côté gauche qu'il y a dans mon cœur. Rappelez-vous, le côté droit, c'est l'âme divine. Le côté gauche, c'est l'âme animale. Chaque fois, je vais me retenir même un instant, deux instants. Kegon, par exemple, là, il donne l'exemple. Shechafetz l'Echol. Par exemple, il veut manger. Si quelqu'un, il veut manger, ça veut dire qu'il a faim ou c'est par gourmandise?
Il a faim.
Pas toujours. Hmm? Ça peut être pas toujours.
Aussi. Imaginons qu'il a faim. Il doit manger. Ok? Mais, ou me'acher seudato, il va repousser son repas. Ad le'acher sha'a ou parot. Il va repousser son repas d'une heure. Ou moins. C'est pas la question combien de temps. C'est la question, il va repousser. Par exemple, le kiddush, il aurait dû commencer à 12h45, il a commencé à 12h50. T'as donné à Dieu 5 minutes.
Ah, 5 minutes, écoute, cher. Toute la matinée, on n'a rien mangé depuis le matin.
Non, mais toute la matinée, t'avais pas faim. T'avais pas faim.
Concrètement,
c'est à partir de là.
Ces 5 minutes que tu as données, elles valent plus que toute la matinée.
Mais concrètement.
Parce que la matinée, t'avais pas faim.
C'est à partir de là.
Là, toi, dans ta tête, tu t'étais préparé que je vais manger à 12h45. Et t'as pas mangé à 12h45. T'as mangé à 12h50. Autre exemple, je viens en kidouche, d'accord? Oh, c'est l'exemple que je donne. D'accord? Je viens en kidouche, il y a des plateaux qui sont posés devant moi. Et il y a quelqu'un qui vient me parler. Moi, j'ai faim, j'ai envie de manger maintenant. Il vient me parler. J'ai envie de lui dire, mais laisse-moi tranquille, je veux manger maintenant. D'accord? Mais comme il vient te parler, tu le respectes. Et tu écoutes. Et entre temps, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le pack, pack, pack. Et toi, t'as faim. C'est pas que t'as faim, t'as envie de manger. T'as envie de manger. C'est pas méchant. C'est pas, t'as envie de manger. D'accord? D'accord? Et tu lui sers. Tu te retiens. D'accord? T'inquiète pas, tu mangeras. Tu te retiens.
Concrètement, quand
tu dis, qu'est-ce qui se passe? J'aurai un avis en moins. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord?
Quand on lit les Tehillim juste après la...
Il y a personne qui passe qui entend.
Tu gagnes ces 5 minutes.
Exactement. Oui. Ça veut dire, c'est apprendre, s'apprendre, s'habituer à ne pas donner à mon corps tout ce qu'il a besoin tout de suite. Ça, c'est le travail du Benoni. Mais là, on est déjà en phase 2. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je fais pendant ce moment dans que j'attends? Par exemple, je devais manger maintenant. J'ai dit, tu sais quoi, je vais manger dans un quart d'heure. Je fais quoi pendant ce quart d'heure? Je regarde le plat?
Non.
Qu'est-ce que je vais faire à la place?
Tu vas étudier.
Parce que sinon, c'est les Beatlesman. Ah oui. Si mon repas aurait dû prendre 15 minutes ou une demi-heure, et qu'à cause du fait que je repoussais d'un quart d'heure, mon repas a duré concrètement 45 minutes, j'ai fait Beatlesman, comme tu as dit Abraham, de 15 minutes. Donc on n'a rien gagné, là, on a perdu. C'est pas ça qu'on dit. Pendant les 15 minutes que je vais repousser, qu'est-ce que je fais? Je vais étudier la Torah. D'accord? Je me rappelle, moi, quand j'étais une fois avec des amis, on était un Shabbat à Aix-les-Bains, d'où vient Abraham. Et on était là-bas, on était passé là-bas un Shabbat entre copains. Et pour Mincha, on était parti à la Yeshiva. C'était un Shabbat du mois d'août, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait quelques personnes à la Yeshiva là-bas. Il y avait le Rav là-bas, un Rav qui ne voit pas bien, je ne sais plus comment il s'appelle.
Hein?
Il est encore de ce monde, je suppose. Ouais. D'accord. Bonne santé, bonne santé. Alors, je me rappelle comme ça, on avait fait Mincha, après il y avait une étude, etc. Après on avait fait Arvit. Et après Arvit, j'entends, je vois les gens. Bon, non, ça on a fait, on a tout terminé, on a rangé les livres, enfin on a fermé les livres et tout. Et je vois les gens, ils se rassoient. Et qu'est-ce qui se passe? 7 minutes de l'Ernen.
Ah, l'étude.
7 minutes. Je sais pas pourquoi 7, c'est comme le 7 jours de la semaine, je sais pas. 7 minutes de l'Ernen. C'est typique excellent ça? 7, d'accord. 7 minutes de l'Ernen. 7 minutes d'étude. Ça veut dire que tout le monde, ils ont fini Arvit, tu comprends? Le tel était plié, t'es terminé. Ça y est, ben, tu vas rentrer chez toi. T'as donné à Dieu 26 heures. Ça y est. Allez, laisse-moi, je vais rentrer à la maison maintenant. D'accord? On te dit non, tu te rassois. 7 minutes. Et à la montre, hein.
Tu les...
7 minutes, à la dernière minute près, ils sont yakés là, pac, tout le monde s'est levé, ils sont partis.
Quand t'as envie de partir, d'accord, c'est bon, 5 minutes.
Eh ben, moi, ça m'a marqué. D'accord? J'ai retrouvé ça à l'Eshiva aussi. C'est pas la question. C'est une idée que, tu montres ton Yitzhara, c'est pas parce que tu veux quelque chose que tu l'auras. Eh alors, qu'est-ce qui se passe si tu vas rentrer 7 minutes plus tard chez toi à la maison? Qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer. t'as montré à ton Yetzara, c'est pas toi le patron. Et même à ton corps, t'as montré. C'est permis de rentrer chez moi. Je sais, je peux rentrer chez moi, c'est fini, c'est terminé. Non. C'est permis, mais je fais un effort. Et c'est comme ça qu'on se travaille.
C'est un peu de la blague,
d'accord? C'est pas de la blague du tout. Non. C'est pas de la blague, pas du tout. C'est pas de la blague, excuse-moi, David. C'est pas de la blague. Non, pas du tout. Non, au contraire. Moi, je peux te dire, si une personne, si une personne qui est fumeur, il s'habitue, quand il veut une cigarette, d'accord, puisque tu as parlé de sa cigarette, il va se dire, je prends la cigarette dans 2 minutes, je te garantis qu'il fumera moins de sa journée. C'est sûr. C'est sûr. Parce que, il y a une grosse partie d'envie dans tout ça. Je le veux tout de suite.
Exactement.
Et si tu t'es déjà retenu, alors une fois que tu as repoussé 5 minutes, tu repousseras de 10 minutes, d'un quart d'heure, etc. Ça veut dire qu'en vérité, on a un côté animal qui est très fort en nous, qui veut quelque chose, il veut tout de suite. Et quand tu t'habitues, même si je le veux, je le prends pas tout de suite, ça fait beaucoup, beaucoup de bien au corps et à l'âme, bien sûr. Donc ça, c'est en vérité, c'est une technique qu'on nous apprend ici. Qui est d'Edita Bigmara, comme c'est écrit dans la Gemara. Bon, Michael, qu'est-ce qu'il en pense de ça, Michael? Michael, il pense, c'est de l'ascétisme.
Non,
c'est une secte, d'accord, c'est une religion, l'ascétisme.
Ah ouais, non, au début, non, c'est la vérité. Au début, quand tu as parlé de ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai dit, tiens, c'est bizarre.
C'est bizarre.
Il y a un truc qui passe pas. Après, ça.
Si t'as dit, ça rentre.
Après, quand tu as commencé à parler de Shabbat, tu dis, ah bon, d'accord, ok. Après, je sais pas, c'est venu seul.
Bon,
c'est bon.
Ça va alors, c'était accroché ça. C'est bien, moi, ça m'a pris des années pour comprendre. Ça t'a compris quelque chose.
Non, mais on va essayer d'expérimenter.
Non, mais. Ah, mais c'est... D'accord, je comprends, ça veut pas dire que je vais y arriver, mais je comprends.
C'est des choses qui marchent.
Oui, ça s'entend.
D'accord.
Ça s'entend, voilà.
Ça se comprend, c'est des choses logiques. On peut comprendre le bienfait que ça me fait. Mais et je vais vous donner plein d'exemples.
C'est vrai qu'au début,
je donne un exemple.
Tu parlais de ça.
Imagine-toi, les exemples sont multiples.
C'est vrai pour la nourriture, c'est comme c'est vrai pour la parole, comme beaucoup de choses.
Imagine-toi par exemple, justement, je vais donner l'exemple.
Je vais prendre un temps.
Imagine-toi par exemple que quelqu'un il a fait quelque chose et j'ai décidé que je dois lui faire une remarque. Et que Béhémet, d'après la Torah, je dois lui faire une remarque. Cette personne peut être ma femme, par exemple. D'accord? J'ai décidé que je vais faire la remarque parce que je dois faire la remarque. Et que Béhémet, même si tu me demandes demain, après-demain, avec du recul, je te dirais, il faut faire la remarque. Est-ce que je dois faire la remarque tout de suite dès que j'ai envie de la faire? Est-ce que je peux pas attendre 5 minutes? Si je me dis, je vais me retenir 5 minutes. C'est très dur. Parce que quand tu as quelque chose qui te démange, tu as envie de le dire tout de suite.
Non.
On est d'accord?
Oui,
c'est très dur d'attendre.
Non, mais
Gronder un enfant. Ça a plus d'impact.
Oui. Exactement. Gronder un enfant, etc. Il faut s'habituer à attendre. S'habituer à dire, c'est pas parce que je veux faire quelque chose que je l'aurai. Parce que finalement, avec quoi on travaille? Avec la volonté. Si j'apprends à maîtriser ma volonté, je suis maître de moi-même. Si je suis pas maître de ma volonté, même si techniquement, la majeure partie du temps, ma volonté opère dans des choses permises, mais quand elle va opérer dans des choses interdites, j'arriverai pas à la retenir. Il faut habituer ma volonté, d'accord, que c'est pas tout ce que tu veux que tu auras, et donc je m'habitue à me retenir. Et il donne un exemple. Alors vous allez me dire, maintenant, d'où sort ça le Tania maintenant? On n'a jamais vu ça dans la Torah, ces histoires-là, qu'on se retient, c'est permis, on ne peut pas se retenir. On a des exemples dans la Gemara.
Par contre, il y a un problème avec le digne de celui qui fait un éder. Tout celui qui fait un éder, il est choté.
Oui.
D'après ça, c'est bien de faire des éderings.
C'est une autre question.
T'empêches des choses.
Non, la question n'est pas est-ce que je fais un éder dans le sens que je m'interdis la chose. Tu vois, il faut attention par rentrer dedans. Je ne m'interdis pas la chose. On va pas jusqu'à là. Je me retiens de pas la prendre tout de suite.
Je repousse un peu.
Itkafia, ça veut dire repousser. Le tzadik, il transforme le mal en bien. C'est une autre gamme. Moi, je transforme pas le mal en bien, mais je repousse légèrement. Je pousse un peu. Tu sais, c'est comme par exemple, tu vois, quelqu'un qui est là, il est à l'aise, mais je le pousse un peu, un tout petit peu.
Tu racontais une histoire du roche bourguignois ou d'un magicien qui prenait jamais de glace.
Oui.
Pour ce ignan là.
Ah oui, bien sûr.
C'est
pas un éder. Non, c'est pas un éder. C'est pas qu'il s'est dit, je vais faire un éder et j'aurai un mérite supplémentaire que je mange pas la glace. Il voit pas ça comme ça. Il voit ça comme un travail sur soi. C'est pas, il se dit, j'ai un mérite supplémentaire et qu'avec ça, j'irai au Gan Eden. C'est pas la démarche.
C'est une glace, ça aurait pu être.
La démarche, c'est que j'ai envie de la glace, je me retiens, je la prends pas. Raconte, ce Mashpia sur lequel tu parles, c'est le Rav Nissan, enfin, il y a plusieurs Mashpiim, mais ce Rav, c'était le Rav Nissan Nemanov, qui était à Vachalom, le directeur de la Yeshiva de Brunois. Et lui, une fois, il est venu à New York. Bon, ça va, New York, comment ils sont très très rares, etc. Lui, il venait d'Europe. En Europe, les mariages étaient presque familial, quoi. C'était les gens qui cuisinaient, etc. Il arrive à New York, il voit un mariage, on l'invite à un mariage, sa famille. Il voit l'entrée, et le premier plat. Il arrive. Et tu le vois, il était comme ça. Lui, quand il était pas con, il était rouge, d'accord, rouge comme son fils, comme ça. Et son fils réfléchit pas maintenant. Et donc, il était rouge, mais il disait rien. Il mangeait pas, bien sûr. Il comprenait pas comment c'est possible comme ça. Et les serveurs, et le premier plat, et le deuxième plat.
Et l'orchestre.
Et l'orchestre, etc. Et l'élégance, et le matériel, et les costumes, et les cravates. Bon. Après, à la fin du repas, ils ont servi la glace. Et là, il s'est levé, il a dit, la glace, non. Vas-y, la glace, non.
C'est trop.
Et depuis, ça avait fait un... Ça a marqué les esprits.
Il n'arrivait plus à trouver au moment où il pouvait se retenir ou...
Non, c'est pas ça. C'est que bon, ils disaient, bon, on est en Amérique. Ils font ça pour le mariage, pour la mitzvah. Mais à un moment, dès qu'il arrivait à la glace, il a dit, la glace, non. C'est-à-dire, il ne pouvait pas comprendre à quoi ça sert la glace. À quoi ça sert?
C'était trop.
Il voit encore de la viande, du poisson, on dit bon, c'est un plat. Ils l'ont décoré, mais c'est un plat, d'accord? Mais là, la glace, à quoi ça sert la glace? T'as pas faim maintenant? Qu'est-ce que tu manges la glace? Ça rentrait pas dans sa tête, pourquoi tu manges la glace? C'est un niveau. C'est un niveau, mais c'est compréhensible.
Donc il y a quelqu'un d'autre à côté, il a pris la deuxième glace.
Et toute la vie, c'est comme ça. D'accord? Toute la vie, c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un, il a une voiture, il veut acheter une meilleure voiture. Pourquoi ta voiture, elle marche pas? Il a un téléphone, il veut acheter un meilleur téléphone. D'accord ? Il a une maison, il va acheter une plus belle maison. Non, c'est pas la question de t'es in. C'est la question, qu'est-ce que je veux ? Comme je veux, j'ai envie. Je veux une nouvelle voiture, c'est tout. T'as envie ? Et alors, si t'as envie, t'as besoin ? Je dis pas que tu l'achèteras pas à la fin. Achète-la à la fin. Mais retiens-toi un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si... Qu'est-ce qui se passe si les sièges en cuir, ils seront pas surpiqués ? C'est la fin du monde ?
C'est important, la surpiqûre. Ça, ils l'ont compris. Hein.
Ah oui. Et c'est la couleur, la surpiqûre. Qu'est-ce que c'est ça, hein?
Rouge ou jaune.
Qu'est-ce qui va se passer si c'est pas surpiqué avec une couleur qui va avec? Ou d'une autre couleur? Franche. Ok, bon, on va revenir au spirituel. Alors. Ça y est, David, il a essayé, ce n'est pas la Rolex.
Moi, c'est trop tard. J'ai 50 ans, j'ai pas eu de Rolex, j'aurais.
Et la Big Mara. Donc maintenant, vous allez me dire maintenant, quand on lit tout ça. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas des choses... D'où ça vient, ça? D'où ça vient, ce qu'on raconte ici? D'où ça vient? Ça veut dire, ce qui est interdit. Mais est-ce qu'on a des références dans la Gemara où on voit qu'il y avait comme ça des gens qui s'interdisaient des choses qui étaient en vérité permises? Où on voit ça? En tout cas, pas s'interdiser, mais au moins dans le sens de retarder. Où on voit ça? On a des exemples. C'est quoi l'exemple de Laban ici? Qui est des Ita Bigmara, comme c'est écrit dans la Gemara. Char et vit ma'achal kol adam. La quatrième heure de la journée, c'est l'heure où tout le monde mange. Shashishit, ma'achal, talmid chachamim. La sixième heure, c'est l'heure à laquelle les talmid chachamim mangent. Pourquoi les talmid chachamim ne mangent pas à 4 heures comme tout le monde? Je ne parle pas à 4 heures l'après-midi. La quatrième heure de la journée. Ça veut dire environ, le premier, il mange à 10 heures du matin, le talmid chachamim va manger à 11 heures midi. Pourquoi le talmid chachamim ne mange pas comme tout le monde? Il a moins faim que les autres? Il a faim comme tout le monde. Si les gens ont pris l'habitude de manger à la quatrième heure de la journée, c'est que c'est là où on a faim. Pourquoi le talmid chachamim mange plus tard? Qu'est-ce qu'il fait quand il mange plus tard? Il dit, quand on voit dans la Gemara là-bas, on voit que la Gemara explique, Ve'ayu mar ivim atzmam shteshot. Il s'affamait volontairement pendant 2 heures, les kavanazo. Pour cette intention. Pour l'intention de faire passer le message au Yitzhara, c'est pas parce que tu veux que tu l'auras. Maintenant, tu dis, mais finalement, au bout du compte, 2 heures plus tard, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va manger.
Il dit, af, shegam, achar, asouda, ayolom, dim, kolayom, même si tu vas me dire maintenant, mais ceux-là, d'abord, il va manger après, et en plus, je veux dire plus que ça. Qu'est-ce qu'il faisait déjà après le repas?
Il continue.
Il étudiait la Torah toute la journée. Donc, je comprends pas ce talmid chacham. Toutes les façons, toute la journée, il va étudier la Torah. Qu'est-ce que ça change s'il va manger à 10h du matin et qu'il va étudier la Torah toute la journée, ou s'il va manger à midi et qu'il va étudier la Torah le reste du temps? Toutes les façons, il va étudier toute la journée. Qu'est-ce qu'il a gagné en se retenant 2 heures? Dans le cahier des charges, qu'est-ce qui s'est passé? De toutes les façons. Manger, il a mangé la même quantité. D'accord? L'étude, il a étudié exactement la même chose. Sauf qu'il a décalé. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné, comme ce qu'on a expliqué ici, que grâce à ça, il a gagné qu'il s'est retenu. Et quand il s'est retenu, il a fait passer un message au Yitzhara, c'est pas parce que tu veux que tu l'auras. Et ça, tout à l'heure, j'ai parlé du Rav Nissan Nemanov. Ça, c'est un niveau. Le Rav Nissan Nemanov, par exemple, il expliquait la chose suivante. Il disait, Itkafia, à l'époque, chez le chassidim, ça voulait dire se retenir de ne pas prendre même les éléments de base. Ça, par exemple, à tel point, quand tu lui donnais du pain avec la margarine, il prenait que le pain sans la margarine. Parce que la margarine n'est pas nécessaire. Mais Rav Lucien Manoeuvre l'expliquait à ses élèves, il leur disait, de nos jours, ce n'est pas forcément ça ce qu'on demande. Si on demande à se travailler sur des nuances, dans le sens de Itkafia, par exemple, imagine-toi par exemple que j'ai deux aliments devant moi, les deux ils sont aussi bons pour la santé, et les deux ils sont aussi appétissants, et les deux ils sont aussi nourrissants. Mais un, il a l'air plus bon que l'autre. Et que je vais prendre bien sûr celui qui est meilleur. Si je me retiens à prendre l'autre, je viens de faire Itkafia. Ça c'est encore un exemple qu'il donnait. Bon, vous allez me dire après, c'est un niveau, hein, la vérité, moi je suis pas à ce niveau-là, On m'a raconté par exemple, que le Rav Nissan Imanov, lorsqu'il est arrivé à la yeshiva de Brunois, pour lui c'était nouveau le concept qu'il y a du pain tous les jours. J'entends David. Pour lui c'était nouveau le concept qu'il y a du pain tous les jours. Parce que quand il était en Russie, il n'y avait pas du pain tous les jours. Le boulanger faisait du pain et il tenait 2-3 jours. D'accord ? Quand il arrive à Paris, du pain frais. Quand il arrive à Paris, on lui a appris le concept qu'en France, c'est le pays de la baguette, d'accord ? Il y a du pain tous les jours. Et lui, c'était comme ça qu'il vivait. Il achetait le pain, mais le pain qu'il achetait, il le mangeait le lendemain.
Dur ?
C'est-à-dire, non, pas dur. Il n'est pas dur. Non, il mange à son problème. Il est moins frais.
Ça dépend de la boulangerie.
Tous les jours, il mangeait le pain de la veille. Volontairement, c'était volontairement, il se travaillait sur ça. Et il a instauré ça. Attendez, je vais finir. Il a instauré ça même à la yeshiva. Maintenant, les élèves qui venaient à la yeshiva, il y avait des fois des gens qui faisaient. Il y avait des.
Bah oui.
Maintenant, les élèves qui venaient à la yeshiva, hein, à un moment, il y avait des balais de chouva qui sont venus. Eh, les balais de chouva, ils voient du pain. Ils comprennent pas. Ils voient du pain frais à la cuisine, on voulait lui faire le pain de la veille. Ils comprennent pas. Il dit, mais attendez, vous avez un retard d'un jour, récupérez-le, je vous paye ce qu'il faut et c'est fini, arrêtez ce retard. D'accord? Il croyait que c'est un problème d'argent. Et on lui expliquait que non. Alors bon, il faisait la tête les balais de chouva. Et à la fin, vous savez comment ils l'ont convaincu à la fin du pain frais. Il a dit comme on a beaucoup de balais de chouva qui viennent, parce qu'à l'époque il y avait énormément de balais de chouva à la yeshiva, comme il y a des balais de chouva qui viennent et que ça risque Chasvei Shalom de les repousser de la yeshiva, donc on va leur donner du pain frais. Et on va donner à tout le monde du pain frais. Voilà comment regarder les choses. Là comme un chassid regarder les choses. C'est-à-dire que dans sa tête, le pain d'hier il est aussi bon. Et au contraire, je veux prendre le pain d'hier.
C'est valable aussi pour les femmes. Pas la dernière perruque, pas la dernière chaussure qui est sortie.
Tout, bien sûr, c'est valable pour les femmes. Moi, je pense que c'est valable pour les femmes. Chacun son etc.
Vous pouvez attendre.
D'accord.
Elle attend la troisième semaine décembre, elle ne va pas à la deuxième.
Et vice versa.
Ouais, mais de café ?
Le soir, elle aura mal à la tête.
Ah, j'en ai d'un coca, et ben je vais prendre
Je te donne un exemple. Quand, par exemple, je vais manger un plat, mais attention.
J'ai l'exemple de boule de glace qu'il a donné déjà il y a quelques années.
Au lieu de prendre le verre de coca, tu prends un verre de bourra, j'ai réglé ton problème.
Non, par contre, ça. Pas surtout, j'ai pas fait café surtout.
Tu connais ton Jojo Sebag ? Là, tu connais Jojo Sebag d'Orly. Jojo Sebag, quand il était. Bon, c'est quand même qu'on est. Quand il était Bahour. Ou jeune marié ou barreau, en tout cas, bon, environ entre 20 et 30 ans. Il est venu chez le rabbi, en entrevue privée. Et il a demandé au rabbi des conseils, etc. Et une des choses que le rabbi lui a dit, il faut que tu fasses Itkafia. C'est quoi Itkafia ? Il dit par exemple, lorsque madame elle te sert le plat, ta maman, etc., et qu'il manque un peu de sel, tu rajoutes pas du sel. Et il le fait jusqu'aujourd'hui. Oui, il le fait. Il le fait. Il rajoute jamais du sel dans ses plats. C'est ses enfants qui m'ont raconté.
C'est pas plus mal. Hein.
Hein non, c'est pas une question de santé.
J'ai bien compris. Mais au final, il s'est habitué. Donc il estime que c'est comme ça.
Ça veut dire que c'est habituel, pas rajouter de sel. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas mangé le plat ? Il n'a pas mangé le plat ? Il n'a pas l'ouvrir ? Non, le rabbi n'a pas parlé explicitement du sel. Le rabbi a parlé de kafia. Je crois qu'il a demandé après. Hein ?
Quoi ? Avant, maintenant.
C'est pas la question où il kiffe.
Non, mais attends. Un buffet.
Ça veut dire qu'il mange tous les plats.
Oui.
Comme quoi ?
Est-ce que le plat qui manque un peu de sel, il est immangeable ? Non. Est-ce qu'il est moins appétissant ? Est-ce qu'il est moins bon ? Il est aussi bon pour mon corps ?
Mais non, il est pas à mon goût.
Ah, il est pas à mon goût, mais est-ce qu'il est moins appétissant pour mon corps ?
C'est pareil.
Exactement la même chose. Exactement la même chose. Kiff. Tu crois que le gramme de sel que t'as rajouté, il va changer quelque chose dans ton corps ? Il va rien changer. Il va rien changer. Imagine-toi que t'étais enrhumé, que tu sens pas le goût. T'aurais rien senti, tu t'aurais rien passé. Seulement quoi ? Comme je ressens, donc ça me dérange. C'est un niveau, je dis pas qu'il faut être à ce niveau, je donne des exemples. Chacun, il va adapter ça. Mais la vérité, quand on lit ça, on se dit que là, on comprend qu'on a du travail.
fait, c'est quand même différent. Au départ, tu partais du fait de retarder un peu le voilà. moment.
Voilà.
Là-bas, tu parles de bon faire truc. Manger moins salé.
Non, après, ou retarder le moment, ou enlever un détail de ce que je prends.
C'est plus compliqué en détail.
Ça dépend. Ça dépend.
Globalement, tu fais pas 100%.
Voilà, je fais pas 100%.
Histoire, quelle que soit la chose, voilà. Ne jamais en profiter à
100%. À 100%. Voilà. Ne pas faire un kiff à 100%.
Même quand tu parles d'une maison qu'on construit, on laisse toujours un endroit pas peint ou truc.
Oui,
pas seulement.
Ne pas aller à 100%. Ne pas aller à 100%. Pas aller juste.
C'est pas parfait à 100%.
Dan, tu mets pas les fenêtres.
Tu mets pas les fenêtres.
Il faut qu'il y ait une petite pierre comme ça. Il faut qu'il y ait un petit. Il faut quelque chose qui n'est pas fait. Véhren, pareil. Et là, tu as parlé Yves. Tu as donné un très bon exemple, ouais. D'accord.
Si tu veux.
Alors, tu as donné un très bon exemple. Tu as dit qu'en vérité, on n'a pas besoin de parler seulement de la nourriture. Ça peut être même la parole. Tout à l'heure, j'ai un exemple. On a d'autres exemples. Exemple. Véhren, pareil. Im bolem piv. Si il ferme sa bouche, physiquement, ça t'a envie de parler. Tu fermes ta bouche. Milé d'abert varim. De parler des choses. Alors bien sûr que si c'était du Lashon Hara, on rentre dans la phase A, de la façon ça sourd. Mais des fois, c'est pas du Lashon Hara. C'est des choses, par exemple, j'ai envie de parler des choses, l'actualité, des choses comme ça, des choses que j'ai envie de raconter, mais que j'ai pas besoin de raconter. Et je me retiens, je dis, je me retiens, je veux pas raconter.
Ça, c'est plus compliqué chez moi, non?
C'est très dur, hein. D'accord? Chez Libo mit ave, me od le dabra min neolam. Vechen, pareil, bemirure marchavto. Pareil dans les pensées, David. Quelqu'un qui a une pensée dans sa tête, une pensée cachère, et qui va se retenir de penser à quelque chose en se disant, je vais, à la place de penser à ça maintenant, je vais étudier un devoir Torah. Même s'il va se retenir une minute, même s'il va retenir 15 secondes, ces 15 secondes sont très chères pour Akadosh Baruch Hu. Parce que pendant ces 15 secondes, tu as sacrifié à Akadosh Baruch Hu une partie de ton plaisir. C'est quoi le Korban? C'est quoi le but du Korban? Reach Nichoach, Hachem. Le but du Korban, c'est de faire plaisir à Hachem. On est d'accord? Quand je sacrifie une partie de mon plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si je sacrifiais ce plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, la vérité, c'est quelque chose qu'on le retrouve beaucoup, beaucoup dans le monde de la Chassidut Chabad, mais il n'y a pas que dans le monde de la Chassidut Chabad. On le retrouve aussi dans d'autres milieux. Quand, par exemple, les gens ils vont en Israël, ils vont chez les Gdolim, etc., chez les Ravanim, voilà la simplicité dans laquelle ils vivent. Et c'est des gens, hein, je vous garantis qu'il y a eu des milliers de personnes qui leur ont proposé, c'est sûr. Qui leur ont proposé de leur refaire la maison, de leur faire un penthouse, d'accord, comme ils méritent, d'accord.
Mais ils sont ailleurs.
Tu crois qu'ils se rendent pas compte?
Attends,
tu vas chez quelqu'un, il fait 40 degrés dehors, il est là avec une clim qui marche pas. Tu crois qu'ils se rendent pas compte qu'elle marche pas sa clim?
Mais ils sont plugués avec un cadeau.
Tu crois qu'ils se rendent pas compte qu'elle marche pas sa clim? Bien sûr qu'ils se rendent compte. C'est pas un homme comme moi. Je parle même pas de la clim, je parle de la table qui est branlante. Je parle d'un lit qui est déchiré.
Ils kiffent qu'elle marche pas la clim.
D'accord. Non, c'est ça le truc, c'est ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça, c'est de l'ascétisme. Ça, c'est de l'ascétisme. Les gens qui vont là-bas, ils disent comme tu penses, d'accord? Ils disent qu'en vérité, oui, il est au-delà de ça, il se rend pas compte. Moi, je vous dis, c'est une erreur. Bien sûr qu'il se rend compte.
Non, c'est pas, il se rend pas compte. C'est-à-dire, c'est pas ça.
C'est un effort. C'est moi qui décide dans quoi je mets ma tête. Quand tu décides de moins mettre ta tête dans le matériel, automatiquement, t'as plus de tête dans le spirituel. C'est comme ça.
C'est ça.
Quand j'ai la tête, imaginez une journée dans laquelle vous avez eu la tête à 100% dans le matériel. De quoi aura l'air ce meuble, de quoi aura l'air ci, de quoi aura l'air ça. La tête à 100% dans le matériel. Quand après le soir tu viens, tu vas étudier le spirituel. Ça passe pas, ça rentre pas.
T'as pas la tête.
T'as pas la tête à ça. T'es dans le matériel à fond à 100%. Mais quand tu t'habitues un peu dans la journée de mettre un peu de côté le matériel, automatiquement tu laisses plus de place spirituelle. Parce que c'est binaire. C'est binaire. Plus je suis dans le matériel, moins je suis dans le spirituel. Mmh. Moins je suis dans le matériel, plus je suis dans le spirituel. Maintenant on n'est pas des tzadikim. Les tzadikim, ils sont à un autre niveau. On ne parle pas de tzadikim maintenant. On parle de gens comme nous, qui font un effort. Qu'est-ce que vous croyez quand vous allez par exemple à Bnei Brak? Vous voyez dans quel je ne sais même pas comment.
Dénuement.
Dénuement, c'est même pas. Précarité. C'est une précarité dans laquelle.
Ouais. C'est pas les mêmes
besoins.
C'est-à-dire que là-bas, tu vas chez les gens là-bas. Tu vois une machine à laver, elle a 15 ans. Elle a 15 ans la machine à laver. Et elle a bossé, hein, la machine à laver. Hein? Et elle a 15 ans. Elle tombe pas en panne. Et comme ça. Dès qu'il y a un problème, on fait les teilim et elle remarche, c'est tout.
Il y a un livre à l'intérieur.
C'est une machine à laver, l'ADEME.
Tu vois des machines à laver 15 ans. Elle a 15 ans.
Il y a un livre étant.
Je comprends pas. Tu vois des marques qui existent même plus sur Terre. Et la machine, elle tourne encore. Elle tourne.
Il l'appelle vedette.
Non, mais c'est parce qu'ils mettent du calmant dedans.
Non, il l'appelle vedette, Dan. Ouais.
Ça veut dire que ça, c'est la notion que dans la Torah, on nous apprend beaucoup à nous retenir.
C'est la masse de vie.
Pas interdire, mais retenir. Pas tout ce que je veux, je dois l'avoir. Et quand on s'habitue à être à un niveau comme ça, hein, et c'est pas seulement dans le but que dans le but, comme tu as dit, que c'est une mitzvah, que grâce à ça, non, c'est pour m'habituer, c'est pas tout ce que je veux, pas tout, tout ce que je veux. Et retenez ce qu'il dit ici. Afilou bemeat miser. Même légèrement. C'est-à-dire que même s'il n'est pas la Serge, même si par exemple, il va acheter une voiture à 100 000 euros, et qu'il va sacrifier une option. C'est quelqu'un, comme les rois, ils aiment les chevaux. Les rois, ils aiment les chevaux, d'accord? Les rois, ils aiment les chevaux. Lui, il aime les belles voitures. Et il a de quoi la payer. C'est assourd d'acheter une belle voiture. Hein, Avraham, est-ce que tu as acheté une belle voiture?
Baltachrit, peut-être.
Prends Baltachrit. Est-ce qu'elle les vaut? Est-ce qu'elle les vaut les 100 000 euros? Est-ce qu'elle les vaut les 100 000 euros? Non, 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 c'est pas du gaspillage. C'est pas du gaspillage.
Non, non, mais il a raison.
Non, mais avec
il a raison. C'est pour ça qu'ils ont inventé la Dacia.
Non, c'est pas du gaspillage.
La Dacia, tu demandes des.
Si elle vaut 100 000 euros, c'est qu'elle les vaut les 100 000 euros. Elle les vaut de certaine manière.
Certainement, oui.
Elle a le prix qu'on veut bien lui donner. C'est une valeur sentimentale. Donc elle a le prix. C'est pas assuré d'acheter. Il n'y a aucun issue d'acheter. D'accord? Alors, bon, imaginez quelqu'un, il n'est pas au niveau encore de se retenir de ne pas l'acheter.
Ça sert à quoi?
Mais il va sacrifier une option. C'est ça. Au lieu d'acheter un moteur avec 500 chevaux, il va acheter 450. Tout. Il va sacrifier 50 chevaux à Dieu.
Oui.
Personne ne le verra. Personne ne le
verra. Je ne crois pas que c'est.
Hein?
Ah, j'ai compris.
Il va aller chez le concessionnaire, il va lui dire, monsieur, enlevez 50 chevaux. Il va le prendre pour un fou, le concessionnaire. Il va dire, mais monsieur, je vous le donne au même prix. Non, non, je veux 450.
Si, on a besoin de la clim.
Il a sacrifié 50 chevaux à Dieu.
Il a un four, il est à 400 degrés.
J'attends David.
Non, au lieu de prendre l'écran de GPS.
Mais attention, attention. Juste un point important, un point important. On ne fait pas être café sur le compte des autres.
On ne met pas le volant, on ne met pas le volant.
Vous suivez
pas l'histoire du pain,
non, ça s'appelle de la raison.
Non, c'est une yeshiva, il est éduqué.
Tu veux dire que sur mon kiff de ne pas payer un client, je vais...
Voilà, ça veut dire que je ne fais pas être café sur le compte des autres. C'est-à-dire que je ne veux pas priver ma famille, par exemple, parce que moi, j'ai envie de m'élever. Moi, ce que je fais, c'est mon problème. Et c'est pour ça qu'en vérité, chez les chassidim, vous savez, c'est écrit que les chassidim étaient très rusés dans ça, pour ne pas qu'ils se remarquent. Parce que si ça se remarque, t'as tout perdu. Si ça se remarque que tu t'es retenu, c'est-à-dire que tu le fais déjà par orgueil.
C'est sûr que ça se remarque.
Non, ça se remarque pas. Non, ça se remarque pas.
Je te restaurerai avec ma femme. Qu'est-ce que j'ai pris de l'eau. Voilà,
rien
dit. Lendemain, on est retourné, j'ai pris de l'eau.
Mais qui en sait que tu voulais trois boules?
La clim.
Toi, tu voulais que deux boules. T'en sais rien.
On a remarqué la clim.
Il faut s'efforcer, d'accord? Il faut s'efforcer. Non, mais David, il prépare les pizzas, par exemple. Il va se dire, qu'est-ce qu'il y a si je lui mets un peu moins de lui? Qu'est-ce que ça se passe?
Ah, bah oui.
Ça, tu fais sur ton compte, pas sur le compte des autres. Non, mais David, il est généreux.
Pas de pizza, alors.
Ça veut dire que le concept du Ikafia, d'accord? Le concept du Ikafia, je le fais pas sur le compte des autres. Sur le plat des autres, je dois les saler comme il faut, je leur donner comme il faut, je leur demande à ce que tout va bien, etc. Mais sur mon compte à moi, j'enlève un petit peu. Il y a des gens, malheureusement, c'est le contraire. Quand c'est pour moi, je veux tout au top. Quand c'est pour les autres, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, il manque un peu de cette fin du monde, qu'est-ce qu'il y a? Alors que c'est le contraire qu'on devrait faire. Sur moi, je dois laisser passer. Sur les autres, je dois leur donner au top. Donc, retenez ce qu'il a dit ici. Afilou, bemeat, misère. Même si je me retiens sur un petit détail. Ce petit détail, c'est sacrifice à Kadosh Baruch. Donc, vous voyez, si on pouvait résumer en un mot tout ce chapitre 27, il nous montre qu'en vérité, le challenge de la vie se trouve dans les petites choses. Dans les détails. Le tzaddik qui fait des performances, lui, c'est du gros chiffre. Nous, on n'est pas les tzaddikim. Nous, notre challenge, c'est dans les détails.
C'est pas le diable. D'accord. Dans les détails, là, c'est le...
Combien de fois je vais me retenir à ne pas faire une avéra? Quel détail je vais sacrifier du plaisir permis? C'est les détails, des petites choses que j'aurai finalement, mais je sacrifie. Soit en le retardant, soit en enlevant un petit détail pour ne pas l'avoir à 100%. Alors, il dit... Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est que la personne peut dire, mais attends, je me connais. Ça, c'est peut-être bon pour le super Benoni. Moi, je sais la vérote que j'ai fait hier soir. Je me connais. Qu'est-ce que je suis en train de faire le malin maintenant? Trois boules de glace, deux boules de glace. Arrête tes histoires. Je t'en prie. Comme dit David, je t'en prie. Hein? Tu entends David la question? C'est-à-dire que là, maintenant, je peux avoir une petite voix au fond de moi qui me dit, ce que Mendy est en train de nous dire, c'est bien pour des gens qui sont à un niveau à vos tailles. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est bien pour un niveau de gens qui fautent plus. Et que leur challenge, c'est comment retenir, etc. Mais moi, je suis pas à ce niveau-là, donc ça me parle pas. C'est pas mon niveau. Viens, l'admorazakan y répond, il dit, c'est une erreur. Peu importe les avérotes qu'une personne a fait, indépendamment de ça, il peut se retenir un petit peu dans le matériel, dans ce qui est permis. Même s'il a fait d'avérotes à part ça en parallèle. C'est pas incompatible. Et au contraire, non seulement que c'est pas incompatible, ça l'aidera à mieux se retenir, comme il dit ici. Il dit, ou mikdou chazo. Alors on va reprendre dans les mots. Quelle page?
28.
Ou mikdou chazo de 7 kedusha. Nimshechet kedusha Eliona ala Adam lemata. De cette kedusha que je vais prendre sur moi, de me retenir, de pas donner tous les détails, Et ben ça, ça va faire en sorte que Dieu, il va amener sur moi une grande kedusha. Parce que la Gemara dit comme ça. Les Sayo Siyuara Vyatsun la Vodato et Barer pour l'aider d'une grande aide extraordinaire pour son travail. Comme dit la Gemara, Vezeu Shamur Rabotanu Zichrona Livracha. Avec ça, on va comprendre ce que les Chachamim ont dit. Qu'est-ce qu'on dit les Chachamim? Les Chachamim ont dit Adam et Kadesh Atzmo Me'at Lemata. Si un homme se sanctifie un petit peu en bas, mais Kachi Moto Harbe Milmala, on le sanctifie beaucoup d'en haut. Ça veut dire, quand moi je fais un petit effort de pureté en moi, eh ben Dieu amène une grande pureté sur moi. Donc ne crois pas, peu importe les bêtises que j'ai fait. D'accord, le gars il a fait 50 bêtises, après il arrive tout d'un coup, il dit non mais je prends un peu moins, et de kafia. Quel kafia? T'avais le petit affaire, qu'est-ce que j'ai fait de kafia? Oui, de kafia. Parce que quand je montre à Kadosh Baruch Hu que je sacrifie un tout petit peu, ben quand moi je sacrifie un peu à Kadosh Baruch Hu, en parallèle à Kadosh Baruch Hu, il me donne beaucoup de Kdusha. Et quand il me donne beaucoup de Kdusha, ça m'aide à me retenir. Donc faut pas, c'est pas incompatible. Je peux faire d'un côté une Avera, et d'un autre côté me retenir sur des petites choses sur lesquelles j'arrive, et comme ça, ça mène une grande Kdusha dans moi. Il dit maintenant, Levad, Mashemekayam mitzvat asé, comme te dit Avram. Veit kadishtem, keshemekadesh, atzmo bemutarlo. C'est une Gemara. D'accord, la Gemara d'Ochreté Ivamot, Rachid le ramène, et le Ramban Nachmanide y développe le fait que ça veut dire quoi quand la Torah nous dit, vous avez dans les mots, Veit kadishtem, page 28. Ça veut dire quoi lorsque la Torah nous dit, vous allez vous sanctifier? C'est quoi se sanctifier, Yves? Se sanctifier, ça veut dire quoi? C'est se sanctifier dans ce qui est permis. Kadesh atzmecha bemutarlach. Ou pirouj veit kadishtem. Mais là, écoutez le chidouche qui dit. Le mot v'itkadishtem. Ça veut dire quoi v'itkadishtem?
Vous vous sanctifiez.
Alors attention, il y a un piège. Vous vous sanctifierez. Ça veut dire quoi se sanctifier?
Je sais pas.
Ça veut dire se rendre
pur.
Se rendre saint.
Non. Traduction. En français, se sanctifier, ça veut dire quoi? Se rendre saint. Ça veut dire, ça veut dire que je me rends saint. Vous entendez ce que je dis?
Je ne suis pas devenu saint par, l'action de quelqu'un d'autre.
Donc je deviens saint. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Mm-hmm. Et alors, comment je deviens saint? Et là, il dit, Kelomar, ça veut dire, Av Shebemet Eno Kadosh. D'accord? Moudalu Strahara. Pourquoi? Avdala, Kihi Betokfa Ogvurata, Ketolata Bechalasmali, Rak Shekovesh, Yitro Mekadesh Atzmo. Voilà, il s'explique ici. C'est quoi Kadosh? Kadosh, en hébreu, ça veut dire se séparer. Si je me sépare de quelque chose, forcément, ça veut dire que j'ai envie d'y aller. Tu comprends? Quand, par exemple, quelqu'un va dire, tu sais, aujourd'hui, je suis pas allé à Honolulu. Est-ce que c'est un chidou, je suis pas allé à Honolulu? Non, parce que je comptais pas y aller. Ah, aujourd'hui, je me suis séparé de Honolulu. Je me suis pas séparé, je comptais pas y aller. À partir de quel moment on peut dire que je me suis séparé de quelque chose? C'est quand je voulais le faire et qu'il était
proche,
à ma portée. D'accord? La même chose. Le tzaddik, il sait pas ce que ça veut dire, se séparer. Parce qu'il est pas attiré par ça. Donc finalement, c'est qui le vrai kadosh? C'est nous le vrai kadosh. Parce que moi, je sais ce que ça veut dire me séparer de quelque chose. Parce que j'ai le goût, et il est à côté de moi, et il est, d'accord? Et je suis confronté à ça. Et quand je me retiens de pas fauter, et encore plus que ça, je me retiens même dans ce qui est permis de sacrifier un détail. Et ben, quand je fais ça, je deviens kadosh. Je deviens kadosh dans le sens que je me suis séparé de la matière, d'accord? Et comme ça, chaque fois que je fais, même un instant que je fais, je casse mon Yitzhara et j'habitue mon Yitzhara que c'est pas le patron. Alors il te dit, voilà pourquoi la Torah dit, là, bon, c'est un jeu de mots, mais ça rentre dans le pasouk. Le verset, il dit comme ça. Quand on voit le pasouk dans la parasha Kedoshim, je vais vous le traduire. Le verset, il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Est-ce qu'elle marche la phrase que je viens de dire?
C'est pareil même.
C'est une répétition. Ouais. Vous vous sanctifierez et vous serez saints.
Et donc vous serez saints.
Ouais, mais ça veut dire quoi?
Il y a une notion d'action là.
C'est-à-dire qu'il y a une action, il y a un résultat. Mais c'est les deux. C'est la même chose. Vous vous sanctifierez. Si je me sens sanctifié, c'est que je suis saint. Alors ça veut dire quoi? Vous serez saint. Pourquoi tu me répètes? C'est un pléonasme. C'est du pareil même comme tu as dit. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'il y a deux phases dans ce pasouk. Veit kadishtem, vous vous sanctifierez. C'est l'effort que moi je fais de mon côté pour me sanctifier. Ça veut dire pour être saint, pour être séparé, pour me séparer de la matière, pour me séparer du plaisir de la matière. Si moi j'ai fait cet effort, alors là, vous serez saint. C'est Dieu qui donne la bras et te dit, maintenant, moi je vais donner mon coup de pouce à moi et je vais t'aider que Béhémeth, tu vas réussir à être séparé de la matière. Et Béhémeth, tu vas réussir à arriver à un niveau que la matière va moins t'attirer. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus de ne pas être trop attiré vers les bêtises de ce monde-ci? Voilà, c'est un autre niveau. Dieu, il dit, montre dans tes choses à toi que tu te sépares et que tu ne mets pas toute ta tête dedans. Et moi, je vais donner une bracha que même dans ce qui devrait normalement t'intéresser, je vais donner une bracha que ça va pas t'intéresser.
Et la fin du passage.
Qui Kadosh Ani? Bien sûr.
Les Mouvdal Abdel Wakhon ou quelque chose?
Bien sûr, il est Mouvdal de nous. Il est beaucoup plus haut que nous.
Il est partout.
Oui, mais ça veut dire dans le sens qu'il est beaucoup plus haut que nous, Kadosh Baruch Hu est beaucoup plus élevé que nous. Il est très très haut, Kadosh Baruch Hu.
C'est quoi la fin? Il est très haut.
Kadosh Ani, car je suis saint. Oui, mais dans le sens que Kadosh est Mouvdal. Le mot Kadosh vient du mot Mouvdal.
Parce qu'il est saint, c'est pour ça que tu vas être saint. C'est ce qui est marqué. Sinon, tu peux pas être saint.
Non, mais si tu traduis saint par séparé. Oui. Se séparer de quelque chose. Dieu n'est séparé de rien du tout.
Séparé de la matière. Donc alors, enfin, on va terminer. Il dit, allez, dès chez Mekachim Otor Bemilmala, ou Mesai Imoto le Garcha Milibo Mehat Mehat. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu nous aide progressivement à renvoyer le Yitzhara. Mehat Mehat, petit à petit. Et là, je termine avec ça. Petit, et regarde, ça aussi, on a ici un mot en vérité. Petit à petit. Step by step. D'accord? Progressivement. Vous savez, on raconte que l'Admour Hazaken, il a dit une fois à un de ses chassidim, qui s'appelait Rabbi Mordechai Liepler, il lui a dit, je suis Benoni. L'Admour Hazaken, il a dit ça à ce chassidim, il a dit, je suis Benoni. Alors, Rabbi Mordechai, il a répondu à l'Admour Hazaken, il lui a dit, mais Rabbi, moi aussi je suis Paracha. Sinon, tu dis, je suis Benoni. Alors, l'Admour Hazaken, il lui a répondu, il lui a dit, dans le Benoni, il y a au moins 500 niveaux différents. Vous avez répondu, 500. Maintenant, on comprend. C'est-à-dire que, vous avez vu, regardez les exemples que j'ai cités ce soir.
C'est une catégorie fourre-tout. Oh,
je me disais.
Se retenir, c'est, tu peux tout mettre dedans. D'un côté, tu mets celui qui mange le pain de la veille, celui qui sale pas, dans le côté, celui qui se retient 5 minutes plus tard, et c'est des gammes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais l'idée est toujours la même. C'est quoi? C'est que ce que j'ai envie de faire, je le fais pas tout de suite. Je le fais un peu plus tard, ou bien, je le fais maintenant, mais je sacrifie un détail avec Akadash Banco. Alors, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il va faire, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il va faire que chacun de nous, il va faire ce qu'il doit faire. Vous savez, il y a un mot de Rabbi Zusha d'Anipoli. Rabbi Zusha d'Anipoli, il avait l'habitude de dire, lorsque je vais arriver en haut, après 120 ans, on va pas m'exiger et me demander pourquoi tu n'étais pas Avraham Avinu. On va me demander pourquoi tu n'étais pas Zusha d'Anipoli.
Il faut être soi.
Vous comprenez? Ça veut dire, c'est quoi le problème? Nous, on s'imagine, on a mis des modèles, des top modèles, tu vois, les tzadikim. On a dit, ou tout ou rien. Performance, comme tu dis. Ça, c'est les tzadikim. Quand je vais arriver en haut, on va pas me demander pourquoi t'étais pas le rabbi. On va me demander pourquoi t'étais pas Mendy Assouline. Pourquoi t'as pas fait ce que Mendy Assouline aurait pu faire. Mehat. Tu veux me dire, mais je suis pas à ce niveau-là. Mehat. Petit à petit. Petit à petit, repousse un petit peu. Et avec le temps, on change. Comment on éduque les enfants? On éduque d'un coup? Mais hâte, petit à petit. Au début, ça rentre pas, hein. D'accord? Je me connais. Je sais ce que je peux faire. Quoi? Moi, je parle à moi.
Moi, je sais pas.
Qui toi?
Ah, moi, je sais pas.
Moi, je parle.
Mais moi aussi.
Quoi?
Moi, je sais pas. Quel est le potentiel d'avoir
toi, tu sais ce que tu.
Bien sûr, tu sais.
Non, toi, tu sais ce que tu.
En tout cas, tu sais. Quoi?
Toi, tu sais ce que tu peux faire.
Une grande partie.
Une grande partie, tu sais ce que tu peux faire.
Après, tu peux découvrir que tu as des capacités. Ça arrive, comme ça, de se dire, se découvrir des capacités que l'on ne pensait pas.
Mais ça arrive.
Ça, c'est quand tu fais une recherche sur toi.
Ça arrive quand on fait une recherche et quand on se suffit pas de ce qu'on a.
Tu cherches ça.
C'est comme dans les affaires. Pas suffire de ce qu'on a.
Je ne me croyais pas capable de, et tu le fais.
Mais moi, c'est parce que tu le potentiel est
très très grand.
Tous.
Mais on a. Mais on n'a pas le potentiel. On n'a pas. Même si on le vise, on n'a pas le potentiel d'être Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait le potentiel d'être Avraham Avinu. Moi, j'ai pas le potentiel d'Avraham Avinu.
Peut-être qu'Avraham Avinu n'a pas atteint le potentiel d'Avraham Avinu.
J'ai le potentiel de Mendy Assouline. Non, peut-être Mendy Assouline, il a le potentiel d'un grand sadique. Qui sera une référence pour la génération à venir, Mendy Assouline. D'accord? Peut-être. Mais en tout cas, et en plus, voilà, vous pourrez dire que vous m'avez connu. En toute humilité.
Donc, c'était ça le point de chute du cours.
Voilà. Mais, ce qu'on doit retenir, méat, petit à petit. Petit à petit, chaque fois qu'on se retient petit à petit de repousser le Yitzhara, d'accord, on s'habitue à ne pas avoir tout ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on s'habitue progressivement à amener plus de goucha dans sa personne, à enlever la couche de graisse, d'accord, et la couche de crasse qui nous recouvre, d'accord, la couche de grossièreté comme il a dit. Et comme ça, progressivement, on avance, on se raffine. Et quand on se raffine, automatiquement, quand tu fais un flashback sur 15 ans en arrière, tu te dis, mais quand 15 ans en arrière, je t'ai intéressé par ça? Mais c'est impossible, c'est grossier, ça. Pourtant, il y a 15 ans, ça me dérangeait pas. Parce qu'avec le temps, je suis venu au cours de Tania, et j'ai appris la Torah, et je commence à faire Shabbat, etc. Quand je commence à faire la mitzvot, je comprends que c'est là que je vois que mon regard a changé.
Tu te retournes
et que et là je vois ça. Je vois que finalement on a progressivement enlevé une couche de grossièreté sur nous. Des choses qui me dérangeaient pas avant, maintenant ils me dérangent. Parce que on a enlevé progressivement une couche de grossièreté. Voilà, que Dieu fasse que on va comme ça, Bezrat Hashem, se travailler et se préparer.
Il va servir.
Tout ça, c'est à chaque fois. Ça veut dire quoi? Si on décale un peu.
Quand j'étais au Rabbi, le Rabbi m'a dit m'envoyer un message.
Consacré à quel jour? Zéoubli. Si c'est uniquement penser au tenir et jouer la montre 5 minutes, ça n'a aucun intérêt.
Non, c'est pas jouer la montre. C'est l'idée. C'est pas une question de temps.
Le temps ou la.
C'est dans la tête. Dans la tête. C'est pas grave. Même si tu joues la montre dans la tête, c'est bien déjà. Je te donne un exemple. Même si par exemple, j'ai voulu prendre 3 boules de glace et j'en ai pris que 2, et concrètement, j'arrête pas de penser à la 3e boule. Et j'ai pensé pendant un quart d'heure. D'accord ? Cette 3e boule, je l'ai offerte à Dieu. Cette envie de 3e boule, je l'ai offerte à Dieu. Mon plaisir n'était pas parfait. Et ça, c'est un cadeau que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu. Et non seulement que c'est un cadeau, c'est un travail que j'ai fait sur moi de ne pas avoir tout ce que je veux. Et ça, c'est un impact énorme sur l'Yetzer Hara. Tu lui montres, c'est pas le patron. Petit à petit. Vous savez, je vais vous raconter, bon, puisque je vois que vous voulez, puisque je vois que vous vous levez pas, donc je vais raconter une anecdote. Ma mère m'a raconté cette histoire. Une fois, d'accord, bon, on va passer un petit peu, c'est pas grave. On a commencé plus tard. Une fois, ma mère m'a raconté, elle a dit, une fois, voilà, vous allez faire café exactement. Ouais. Ça va être café, c'est intéressant. Voilà.
Non, mais on consacre 5 minutes.
Voilà, on consacre 5 minutes à Kadosh Baruch Hu. Ma mère m'a raconté comme ça. Elle m'a dit, une fois, il y avait un invité qui est venu chez nous à la maison. Bah, apparemment, quand j'étais petit, je me rappelle pas. Il a raconté, il a dit, il était chez le rabbi. Vous savez, à l'époque, côté chez le rabbi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a déjà beaucoup de monde aujourd'hui, mais il y avait à l'époque encore beaucoup plus de monde. Et il n'y avait pas beaucoup de bancs. Qui étaient assis sur les bancs en général? Il y avait soit les vieux, soit des gens qui avaient les places héritées, au vraiment des gens, etc. Bon, c'est compliqué. Lui, ce chassid, qui était invité chez mes parents, un français, il est venu une fois, il a dit, je me levais de bonne heure, je vais arriver là-bas à 6h du matin, je vais réserver ma place, je vais mettre devant le rabbi, pack, et je bouge pas. Il est venu, quand il est venu, dans le banc où il est venu, il n'y avait personne. Il s'est assis. Après, il a raconté, il a dit, un peu plus tard, c'est à 6h30, il y a un vieux qui vient, qui dit, poussez-moi un petit peu si vous voulez. Non, le banc, il est grand, t'as 20 places. Non. Alors, il se pousse un petit peu, t'es une personne âgée. Après, il y a un deuxième qui vient, un petit peu. Ça a duré 2 heures, comme ça. Un petit peu. À la fin.
Il est tombé.
Il se retrouvait sur...
Debout.
Mais personne l'a viré.
Oui, mais progressivement.
Personne l'a viré.
Ils l'ont repoussé petit à petit.
Personne l'a viré. Chaque fois, tu vois un bain avec une canne, tu vois quelqu'un, un enfant, etc. Ok. Et à la fin, ils se retrouvaient debout. Il avait dit, c'est comme ça en vérité. Enfin, ma mère m'a dit comme ça. Elle m'a dit qu'elle a compris. C'est comme ça avec le Yitzhara. Pareil. Petit à petit.
Tu laisses un peu de place.
Tu le pousses un petit peu. Un petit peu. Est-ce qu'à la fin, il se pousse, mettre et il s'en va. Mais ça prend du temps, mais ça marche. Après, il y aura d'autres Yitzhara qui viendront, c'est pas un problème. Il y aura un autre banc. Mais bon, en tout cas, ce banc-là, on peut le gagner. Mais hâte. Petit à petit.
Mais Atmeat, c'est en 1800 quand même.
Hein?
On est quand même.
Ça change pas. Après, ça change pas, c'est éternel ça. Ça change pas. Mais Atmeat, c'est éternel. Mais Atmeat, agar chez nous, dit David Amalher. Petit à petit.
L'oiseau fait son nid.
Step by step, David.
Il faut toujours faire attention petit à petit parce que autrement.